Du coup, on a parlé du licenciement ou du départ de Gennaro Gattuso. En tout cas, aujourd'hui, même si ce n'est pas encore officiel, qu'on n'a pas encore eu le droit au tweet de l'Olympique de Marseille et une conférence de présentation, on a son successeur. Successeur, bien évidemment, pour un intérim, c'est Jean-Louis Gasset. Vraiment une nouvelle, comme l'a dit Moha au début du
Et Monsieur
Space, qui
Quentin,
pour moi
s'il te plaît.
était un canular. Je pensais vraiment que c'était un canular. Juste en repensant à sa dernière expérience avec la Côte d'Ivoire, où, si je dis pas de bêtises, soit il démissionne, soit il
Il
se fait
démissionne.
virer au terme de la phase
Il
de groupe.
démissionne.
La phase de groupe, ouais, juste après la défaite 4-0, je crois, face à, ou 4-1
4-0.
face à la
4-0.
Kenya tout à l'heure.
Un match FM,
4-0.
si on me demande. Un match scripté. Moi, j'ai vu le match.
Un
C'était un match
match
scripté.
scripté, et où les éléphants ont donc promu son adjoint Emersfaye, qui finalement a réussi à aller chercher le titre avec la Côte d'Ivoire dans une CAN qui était complètement folle. Du coup, j'aimerais qu'on parle de cette nomination qui, moi, m'est parue assez étrange. Juste pour donner du contexte, moi, ce qui m'a étonné déjà, c'est le fait d'aller chercher après cette CAN, qui est un véritable échec. L'autre chose qui m'étonne, c'est que notre ami Jean-Louis Gasset, je suis désolé, mais il a 70 ans. Et quand je repense aux derniers entraîneurs de l'Olympique de Marseille qui sont passés par le club, qui avaient la quarantaine, comme par exemple Villas-Boas, comme Tudor, qui avaient de la pêche, qui ont fini dépressifs ou alcooliques, pour certains, on peut penser à sa santé, de venir dans ce climat-là, mais aussi par rapport à ses dernières expériences en Ligue 1, qui, bon, Saint-Etienne, c'était pas mal, mais Bordeaux, c'était compliqué l'intérim. Il me semble que Montpellier fait aussi une courte intérim. Comment vous réagissez, vous, à cette nomination? Je vais aller voir Younes, et ensuite après Well, qui n'ont plus parlé depuis un certain temps.
Ah bah en vrai, on a laissé parler ceux qui avaient des infos sur le dossier Clos. Pour le coup, moi, j'en ai pas, donc j'ai juste écouté religieusement. Sur la nomination de Gasset, le problème, c'est que les raisons, on les connaît, hein, elles sont évidentes. C'est que les entraîneurs qui vont accepter de venir pour faire une pige de 3 mois et accepter bien gentiment de laisser le siège à l'été sans poser trop de soucis et sans avoir de revendications, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. C'est un peu le choix de la facilité aussi parce que c'est un entraîneur français qui connaît bien la Ligue 1, donc tu sais que tu vas pas avoir le temps d'adaptation pour la mise en place de ce qu'il voudra faire. Je suis de nature optimiste, donc j'essaie de voir le bon côté des choses. Gasset, il a un petit peu ce côté vieux papy ou tonton qu'on aime bien et qui peut potentiellement mettre les joueurs dans de bonnes dispositions. On a vu que, et on en a parlé notamment la semaine dernière sur le KNDI, que beaucoup de nos joueurs souffrait d'un manque de confiance, et pour moi, c'est ce qui expliquait principalement le fait que beaucoup étaient en sous-performance. Le bon côté des choses, c'est que je me dis qu'avec cet entraîneur-là, ils vont pouvoir être dans un petit cocon et justement pouvoir retrouver un peu de confiance. Et on peut espérer peut-être que sur le terrain, ça rejaillisse un peu. Ce qui me dérange un peu, c'est que ce n'est pas un entraîneur qui a la réputation de beaucoup travailler à l'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'idée de jeu ou de plan de jeu. Il a su bien faire jouer ses équipes et on lui prête notamment le PSG de Laurent Blanc à l'époque. C'est juste un entraîneur qui n'est pas forcément grand bosseur à l'entraînement et j'ai juste peur que pour certains joueurs à l'OM, malheureusement, ça soit un peu rédhibitoire et qu'on ait, en plus de la prépa un peu tronquée de Marcelino et Gattuso le souvenait déjà, en novembre, avec des joueurs qui ne finissaient pas les matchs, etc. J'ai juste peur qu'on ne progresse pas sur ce point-là et qu'on ait une équipe qui manque un peu d'intensité parce qu'on ne travaille pas à l'entraînement. Donc bon, on verra, c'est les a priori que j'ai pour l'instant, et on va avoir une première réponse déjà jeudi pour un match retour qu'on attend tous et qui va pouvoir donner la perspective de fin de saison.
Arilès, je vais intervenir aussi sur le cas Gasset. Déjà, bon, bienvenue. Si c'est lui, on va faire avec. Je pense pas que ce soit un entraîneur catastrophique. Ce qui est drôle, c'est que cette discussion, je l'ai dans mon groupe d'amis tunisiens qui se foutaient un peu de la gueule de Gasset, et un peu les Français, comment ça, ils viennent en Afrique, gna. Et ce monsieur vieux, vieux comme tout, qui n'arrive pas à faire jouer d'aussi bons joueurs ensemble, c'est un entraîneur catastrophique. Et moi, je le défendais. Finalement, c'est nous qui l'avons. Je ne sais pas si je dois être content ou un peu désespéré aussi par les situations, mais je pense que dans le contrat de Gasset, et ça, je m'avance pas, et je pense que vous serez tous d'accord pour le dire, que on va retourner et jouer à trois derrière. Et ça c'est un peu porteur d'espoir pour moi parce que c'est la seule période cette année où ça s'est bien passé. Donc,
Moi, je sais pas.
on verra. Tiens. Ouais, vas-y, Marouane, vas-y.
Non, non, c'est un point intéressant que tu soulèves par rapport au système, parce que, en vrai, moi, je pense que c'est quand même un faux problème, dans le sens où l'effectif que tu as à disposition, que tu sois en 3-5-2 ou en 4-3-3, tu dois être en mesure de faire beaucoup mieux. Et je ne suis pas sûr qu'il soit tenu contractuellement, peut-être qu'ils en ont parlé et qu'ils l'ont choisi en fonction, et là, pour le coup, je te suis. Mais moi, je pense que aujourd'hui, tu dois savoir performer, même en 4-3-3. Je pense que tu as quand même une équipe qui peut être aussi possible d'utiliser en 4-3-3. C'est vrai que ces dernières semaines, en fonction des forces qui étaient disponibles, le 3-5-2, il pouvait être à propos, même si quand même sur certains matchs, partir en 3-5-2 voulait aussi dire que tu n'avais pas de rechange en défense centrale. Et c'est peut-être ça aussi qui a posé problème à Gattuso, et je peux comprendre aussi de ce point de vue-là. Mais pour aborder directement Jean-Louis Gasset, il me semble qu'il utilisait un 4-3-3 avec la Côte d'Ivoire. On l'a vu encore à cette CAN, qui avait aussi des problèmes pour trouver une certaine cohérence dans l'équipe. Je pense que Youss t'en parlera mieux que moi. Tu as peut-être été plus attentif que ça. Moi, je sais que j'ai regardé après que l'Algérie était éliminée, j'ai sincèrement décroché un petit peu. Mais bon.
On peut comprendre. T'inquiète.
Non, c'est beaucoup d'endurance à l'Algérie pour pas beaucoup de récompenses. Mais pour parler plutôt sur l'aspect Ligue 1 de Jean-Louis Gasset, ben, mine de rien, quand on regarde, certes, il y a beaucoup de réussite en tant qu'adjoint. Il avait reçu notamment des éloges au PSG pour son tandem avec Laurent Blanc. Zlatan l'avait encensé sur la qualité de jeu qu'ils avaient produit. Moi, ce qui me fait un peu peur, mais en même temps, ça a les qualités de ses défauts, c'est que on est quand même dans un groupe qui a besoin, je pense, d'un électrochoc, du moins pour repartir. Peut-être pas d'un management à l'Antonetti, mais peut-être de se voir insuffler quelque chose pour la suite de la saison, parce que tu es quand même dans un club où tu sais que tu peux partir d'un mercato à l'autre. Tu es dans un club aussi où tu peux te dire que cette saison, elle est potentiellement terminée. Donc tu peux mécaniquement ensuite en conclure que les joueurs peuvent tout à fait décrocher pour la fin de saison. Voilà, faire un amortissage, un atterrissage pour cette fin de saison, en disant, bah voilà, si je me tape une fin de première partie de tableau, de toute façon, on n'attend pas plus de nous actuellement. Et je me demande si Jean-Louis Gasset, lui, il aura le caractère justement pour essayer du moins d'entretenir l'espoir d'une qualification européenne, quelle qu'elle soit, en fin de saison, et notamment directement remobiliser les troupes. Ça, c'est ma vraie.
Tu sais,
Ouais.
Marouane, je voulais aussi un peu rebondir sur ce que
Ah,
tu
vas-y.
dis et ajouter qu'il y a, y a, y a une certaine, y a une certaine frange de coach aussi. On se fout un peu de leur gueule en disant oh, c'est des câlinothérapeutes, gna. C'est pas une mauvaise chose aussi non plus d'avoir un entraîneur qui serait capable de remobiliser un groupe rien que par sa présence et le fait qu'il parle. C'est un monsieur, c'est un vieux papy, tu vois. On se fout de lui parce qu'il est vieux, mais c'est un monsieur qui a assez d'expérience aussi pour aborder les gens, tu vois. Et le fait dans un groupe qui aujourd'hui il est au bord de l'implosion, clairement, vu ce qui a été dit par Kondogbia, vu les attitudes, les choses comme ça, les résultats aussi, ça n'aide pas, tu vois. Ben, je suis pas sûr que ça soit une fausse mauvaise idée. Est-ce que ça se dit en français?
Ouais,
Ouais, ça se dit une fausse
ouais,
mauvaise idée.
en anglais, ça on pourrait le dire, mais en français, ça va être complexe. Mais quoi qu'il en soit. Voilà, je pense que ça peut être intéressant à court terme. Je pense que sur plusieurs années, c'est littéralement impossible. Mais aujourd'hui, dans tes objectifs principaux, ben c'est déjà, avant même de penser à une qualification, c'est juste se redresser déjà, tu
Bah
vois.
après, tu sais, moi je vais te donner mon avis, c'est que en fait, la problématique, c'est pas en soi Jean-Louis Gasset. Parce que Jean-Louis Gasset, moi aussi, je trouve pas que ce soit un coach catastrophique, voilà. Mais aujourd'hui, on parle de l'Olympique de Marseille, qui est en crise institutionnelle totale. Donc, nous, quand il y a un coach qui était à l'agonie comme Gattuso, bah, on espère quand même que pendant le temps où ça allait pas très très bien, qu'il y ait quand même un plan B, un plan C, un plan D. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que Marouane l'avait mis en plus la liste des coachs intéressants et libres. Il y avait quand même des noms quand même qui étaient quand même plus alléchants à aller chercher. La problématique, c'est que moi, je ne comprends pas la stratégie de on finit sur les 6 mois qui restent avec Jean-Louis Gasset. Mais en fait, on finit avec les 6 mois parce que c'est pourquoi en fait? C'est pour que les 6 mois, en fait, ça y est, on les passe les plus vite possible. On attend que la saison se finisse et on attend la saison prochaine. Et dans ce cas-là, ça serait une erreur incroyable parce que ne pas accrocher l'Europe, parce que l'OM n'est pas non plus trop trop décroché non plus. Donc tout reste possible. Et ne pas décrocher l'Europe, ça serait une catastrophe incroyable.
Mais nous, en tant que supporters de l'Olympique de Marseille, on a quand même le droit aussi de vouloir quand même mieux que Gennaro Gattuso. Quand tu vois qu'on a Jean-Louis Gasset qui arrive, 70 ans, le mec, il a fait une conférence de presse quand il avait fini avec les Girondins de Bordeaux où il a dit moi, en gros, je suis très fatigué, j'en ai marre, je vais arrêter. Et que là, il y a eu la Côte d'Ivoire qui est arrivée. Personne n'a compris comment il a pris la Côte d'Ivoire. Au final, il s'est qualifié pour la CAN. Échec cuisant, en tout cas, sous sa tutelle, sélection avec une échec cuisante en phase de poule. Nous, on s'attend à quoi, nous, à l'Olympique de Marseille? Et quand tu vois connexion en Saint-Étienne avec Tessier, encore une fois, qui prend
Mais
de
c'est
plus en
exactement
plus
ça,
d'ampleur,
Maha.
ouais,
Moi, c'est exactement ça.
qui prend de plus en plus d'ampleur. Mais nous aussi, on a le droit de s'inquiéter, nous, en tant que supporters de l'Olympique de Marseille, parce qu'on a l'impression que là, il y a un vent qui est en train de tourner au club, qui n'était pas du tout celui auquel on attendait à la base. C'est ça la problématique, c'est que là, en fait, on est parti chercher un mec qui a 70 ans, qui a un échec incroyable avec la Côte d'Ivoire, et que le mec, il est fatigué comme pas possible. Et en plus de ça, on sait très bien que c'est pas, moi, j'y crois pas une seule seconde, que c'est Longoria qui a choisi Jean-Luc Gasset. C'est impossible! C'est
C'est pas lui,
impossible!
c'est pas lui.
Non, non, mais
C'est
bien
pas lui.
sûr, non, mais de toute
Mais
façon.
il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis. Moi, je pense qu'il y a deux scénarios en fait dans la nomination de Gasset. Il y a le premier, c'est le réseau du gang des Stéphanois au club. Tessier, allez voir la vidéo de Molina, elle explique assez bien la toile qui est en train de tisser Tessier
Ah,
au
je l'ai
club
pas vu. Je l'ai pas vu encore.
depuis un petit moment avec des gens qui l'amènent au centre de formation, avec le dossier Aubameyang, etc., etc. Donc Gasset qui rejoint entre guillemets cette toile au club. Soit pour faire deux choses, donc soit pour devenir adjoint de Christophe Galtier, que Tessier fait que, mais systématiquement, de souffler au club, qu'il a essayé de ramener après Marcelino, qu'il a essayé de ramener après Tudor aussi. Donc il y a cette possibilité-là. Soit, de manière plus générale, et peut-être que Longoria a donné ses directives, mais voilà, j'en doute un petit peu, que Gasset, entre guillemets, c'était à la fois pour manette, pour, entre guillemets, comment dire, amadouer, entre guillemets, Tessier, en suivant sa piste et en même temps pouvoir rebondir cet été et entamer un cycle vertueux à ce moment-là, parce que quand on regarde, certes, il y avait des noms, mais c'est peut-être pas les noms que voulait Longoria à l'instant T. Parce que, par exemple, il y avait Lopetegui, que moi j'aimais beaucoup, mais Lopetegui, entre guillemets, il a refusé l'OM après Marcelino parce qu'il avait été sondé. Donc, sincèrement, et c'est là que c'est nébuleux, et c'est là que pour moi, en fait, ce que ça révèle, c'est beaucoup plus inquiétant que ce que ça en a l'air, c'est qu'on sait pas, en fait, où va le club. Est-ce que finalement, c'est Longoria qui a décidé que, certes, on va prendre la piste de Tessier, mais cet été on verra autre chose, ou c'est véritablement une prise de pouvoir de Stéphane Tessier qui prend Gasset pour préparer le terrain pour Galtier ensuite. Et derrière Longoria, moi on m'avait dit déjà en novembre que potentiellement il allait partir, on m'avait dit assez tôt dans la saison, il est encore là, on verra, il y a difficilement des certitudes quand on parle de Longoria. Et c'est là en fait que c'est inquiétant parce qu'on sait pas où va le club. En même temps, McCourt, on entend parfois à droite à gauche qu'il y a des choses qui orientent vers la vente du club, d'autres qui. De l'autre côté, il n'y a absolument rien. Et finalement, aujourd'hui, si on veut avancer sur les certitudes, ce n'est pas une hypothèse qu'on retient, la vente du club. Mais en même temps, Longoria, aujourd'hui, et c'est un secret de Polichinelle aussi, on sait qu'il veut se tirer dans l'Olympique de Marseille. Et derrière, quand tu vois qu'il y a Stéphane Tessier qui arrive, quand tu vois ses affinités qui sont Christophe Galtier, qui sont des gens au centre de formation comme Ludovic Paravinas, qui sont critiqués aussi dans le milieu pour, entre guillemets, fonctionner en réseau fermé, parfois privilégier leurs intérêts. Là, je répète ce que des gens disent dans le milieu.
Ludovic Paravinas, moi juste une petite parenthèse, c'est quelqu'un que je connais pas très 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 bien, mais que je connais parce que en fait il bossait pour l'AS Saint-Étienne à l'époque, et il avait sa société miroir en fait, en réalité il avait sa société miroir, et je confirme ce que tu dis, et c'est pas par
Et
choix pour ses intérêts.
en fait, et c'est ça, moi j'ai parlé avec des gens qui étaient au club, qui travaillent au club, hein, qui sont travaillés actuellement, qui ont travaillé au club, et moi on me disait finalement qu'il y a eu un shift en fait après le départ de Sampaoli, où on avait bâti finalement une cellule de recrutement, une politique, on a commencé à resituer l'OM dans le recrutement de jeunes, et derrière c'est vrai que dès que Javier Ribalta est arrivé, dès qu'on a écarté tout ce qui va être David Friot, tout ce qui va être Mathieu Louis-Jean à l'époque, tout ce qui va être Mathieu Séquinger, tous ces gens-là et d'autres, même des éducateurs. J'ai un trou de mémoire, tu vas me le rappeler, celui qui était au Havre et qui est arrivé cette l'année dernière. Je sais plus.
Le bail.
Et voilà, Michael Le Baïf qui est parti à la DTN au Maroc, parce que quand il arrive, on lui promet qu'il puisse faire son équipe, mais derrière,
J'avais
il
plus le
y
nom.
a des ingérences et donc il part rapidement, il va au Maroc. Et finalement, on s'aperçoit que il y a eu vraiment.
Tu peux parler aussi de David Friot. Hein.
David Friot qu'on a aussi écarté parce que quand le clan des Espagnols est arrivé au club, David Friot l'a un peu mis au frigo et derrière, ben, il servait plus à rien. Et c'est pour ça que cette scène de recrutement aujourd'hui elle est partie à Lyon. Et en fait, pourquoi est-ce que je lis ça à l'arrivée de Jean-Louis Gasset à la prise de pouvoir de Stéphane Tessier? Parce que Stéphane Tessier incarne aussi après le clan des Espagnols un clan politique au club qui a réussi à s'imposer et qui derrière finalement noyote le club, écarte un petit peu ce qui est extérieur au noyau pour réussir à contrôler le club. Et c'est là que moi je trouve.
Marouane, ce que tu dis juste sur, je suis désolé de te couper.
Non, vas-y.
Sur Stéphane Tessier est très intéressant parce que pour en parler, nous on avait sorti l'info en décembre comme quoi Longoria était sur le départ. Sincèrement, c'est quelque chose qui confiait à son entourage depuis octobre. Nous, on l'avait sorti en décembre. On avait dit que Stéphane Tessier était en pole position pour reprendre la présidence du club. La vérité, c'est que si aujourd'hui, on parle du président officiel de l'Olympique de Marseille, il s'agit de Pablo Longoria. Si on parle du président officieux de l'Olympique de Marseille, et ce, depuis la pseudo-crise de septembre, le président de l'Olympique de Marseille, dans les fonctions, celui qu'on écoute, notamment à travers le pouvoir qu'il a pris au sein du CA du club, aujourd'hui, c'est Stéphane Tessier. Et peut-être qu'il manque justement la prise de fonction officielle suite à la démission de Pablo Longoria, qui soit arrivera, soit n'arrivera pas. Mais aujourd'hui, celui qui dirige l'Olympique de Marseille, et on l'a vu, comme tu l'as dit, sur le dernier mercato estival, même si ce n'était pas encore, le leader du club, aujourd'hui, c'est Stéphane Tessier. Ouais. C'est Stéphane Tessier. Et justement, comme vous l'avez dit, à travers le choix de Jean-Louis Gasset, aujourd'hui, on a clairement le signe ultime que le boss de l'Olympique de Marseille, c'est Stéphane Tessier, et que l'avenir de l'Olympique de Marseille va encore changer. Bon, vas-y, au petit jeu, c'était toi qui voulais.
Il y a 15 minutes, on évoquait le mercato d'hiver, et on disait que c'était Benatia qui avait l'idée des négociations avec Faris, que c'était Benatia qui avait mis Clos sur le marché et qui avait démarché son remplaçant, que c'était Benatia qui avait fait la piste Merlin.
Mais c'est le sportif, ça, au petit.
Et pourquoi la nomination de Jean-Luc Gasset, c'est quoi?
Mais c'est pas incompatible.
Non,
c'est pas incompatible.
Moi, je pense que la nomination de Jean-Luc Gasset, elle est assez simple. C'est que je pense que hier, au coup de sifflet final, ou peut-être avant, comme nous, je pense qu'après le passage à 10, au bout de 5 minutes, je pense que Gattuso a compris et que les deux mecs qui étaient en tribune ont compris que c'était la fin de la rigolade et qu'ils devaient quitter le club. Et là, donc, tu dois activer les ressorts, trouver un club. Trouver un entraîneur, pardon. Est-ce que trouver un entraîneur, Benatia peut le faire? Avec le réseau qu'il a et avec le
passé
qu'il a?
Bien évidemment.
Attendez, je finis. Est-ce que Benatia, il peut trouver un entraîneur dans l'immédiateté du truc? Possiblement. Est-ce qu'il peut trouver l'entraîneur qu'il veut dans l'immédiateté? Je pense pas. L'entraîneur qui veut, je pense qu'on sait qui c'est. Je pense que Longoria l'aime bien aussi. Donc la réalité, c'est qu'il te reste 4 mois de compétition. Est-ce que tu vas aller chercher un autre pari à la Gattuso où tu vas lui dire si tu fais top 4, tu vas rester plus longtemps, ou est-ce que tu prends un pompier? Moi, je pense que la logique du pompier, elle est logique. Je trouve la nomination de Gasset beaucoup plus logique que la nomination de Gattuso, d'ailleurs. Je la trouve cohérente. Après, est-ce que Gasset réussira ou réussira pas? Je crois honnêtement que ce n'est pas important. Je pense que Ghislain et Jean-Louis savent très bien qu'ils vont juste faire une intérim dans le club de l'Olympique de Marseille, que leur avenir ne s'écrira pas plus loin. Même si, franchement, même dans le scénario où ils font... peut-être aller...
Juste une question, Flo. Tu as affirmé que Benatia voulait un profil de coach. Tu penses que c'est qui?
Alors moi, je me fie à mon ami Yous.
C'est qui celui-là?
Je me fie à mon ami Yous sur les échos par rapport à Benatia.
Tu peux. Non, mais j'aimerais bien savoir si on a le même nom, c'est pour ça.
Je pense que oui. Après, on est en février, est-ce qu'il viendra? C'est une autre question.
Ouais, ça c'est une autre.
Il s'appelle Paolo Fonseca, arrêtez le teasing de merde. Il s'appelle Paolo Fonseca. Merci.
Il faut pas promettre des choses aux auditeurs.
Oui.
Mais après, tu promets rien, là, tu dis que c'est la piste.
Voilà, c'est ça.
Parce que tu les connais, ils ont entendu Fonseca, c'est bon.
Moi, c'est pour ça que je trouve la nomination de Gasset logique et qu'elle m'énerve pas, tu vois. Et d'ailleurs, quand on voit le CV du coach, quand je vois des supporters qui marronnent parce qu'il y a Gasset et qui disent est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir Abbandonado, Est-ce qu'on compare vraiment Gasset avec un entraîneur qui a jamais dépassé le niveau N3 et qui n'a jamais gagné le championnat N3 avec la réserve olympique de Marseille? Donc moi, honnêtement, la nomination de Gasset est 30 ans. Force et honneur à nos deux grands-pères. On leur souhaite beaucoup de réussite. Va falloir réparer les têtes. Va falloir trouver, ne serait-ce qu'une animation, un seul plan A. Parce qu'on a beaucoup reproché à certains entraîneurs d'en avoir qu'un plan A. La suite des événements de l'Olympique de Marseille a montré qu'avoir un bon plan A, c'est déjà assez intéressant. Donc on leur souhaite de trouver que la mayonnaise prenne, que la fin de saison se passe pas trop mal. Et après, rendez-vous cet été pour le chantier de notre ami Benatia, Longoria et tous les décisionnaires de l'OM pour partir sur un cercle vertueux. Je reprends les paroles de Marouane, qui, j'espère, s'avérera vrai.
Juste pour revenir sur ce que tu as dit, Opti, par rapport à Fonseca, je pense que vous avez tous eu les mêmes échos que nous. L'OM a déjà négocié avec lui
Ils avaient un
l'année
accord, hein.
dernière.
Ils avaient un accord.
Ils avaient un accord. Malheureusement,
pas voulu le
je crois qu'il n'a pas voulu partir au clash
ouais, et puis il y avait une
avec
clause.
Olivier Létang.
Il demandait 15
Il
millions.
avait une
Il
clause.
demandait 10-15 millions en Lille pour le lâcher. L'OM n'a pas voulu.
Et il a eu aussi des discussions avec un club saoudien au même moment où ça ne s'est pas fait non plus. Il reste toujours dans les petits papiers de l'OM. Alors, on avait pu entendre dans la presse que c'était surtout Ribalta qui le voulait et que Longoria ne le voulait pas. Ça aussi, c'est malheureusement, c'est faux. Et il faut savoir qu'au moment de négocier cet été, l'OM a aussi regardé pour l'année prochaine, aussi tâter le terrain. Parce qu'on était à un moment de tergiversement où l'OM ne savait pas quel coach ils allaient faire, où il y avait énormément de temps pour faire le coach et bah, où il y a eu quelques refus. Il y a aussi un petit cirque médiatique avec un entraîneur argentin au tout début du mercato, Marcelo Gallardo. Et Fonseca, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Est-ce que ça se fera cet été, en sachant que l'entraîneur portugais est en pole position pour aller chercher une place en Champions League avec le LOSC, qu'il a encore des contacts avec des clubs saoudiens et qu'il y a deux, trois clubs de PL qui le surveillent. On suivra ça. Juste, je vais aller vers Walid, parce que Walid va bientôt nous quitter. Comme Wael, il y a un petit décalage horaire, sauf que Walid, malheureusement, il va devoir aller se coucher. Walid, si tu veux rajouter quelque chose sur notre bon vieil ami Jean-Louis Gasset, et peut-être aussi lancer peut-être le sujet sur le grand sujet sur le projet de l'Olympique de Marseille et sur Pablo Longoria.
Ouais, est-ce que vous m'entendez bien déjà?
Nickel.
Super. Contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, je ne suis pas certain que la nomination de Gasset soit si dramatique que ça. Surtout quand on se place dans la réflexion actuelle de l'OM qui est le besoin à tout prix de parvenir à grappiller des points et à finir le plus haut possible. Je pense qu'un Olympique de Marseille qui n'est pas en Ligue des Champions, voire pire, qui ne figure dans aucune Coupe d'Europe, est un Olympique de Marseille qui se retrouve en grand danger financier. Je ne suis pas certain que la surveillance et la restriction et l'encadrement des salaires, plutôt pour prendre le terme exact, que la DNCG avait mis en place à l'hiver dernier, soit un signe forcément très, très positif à l'augure du prochain mercato estival, et ce d'autant plus que je ne crois pas, sauf erreur de ma part, qu'il y ait le moindre joueur qui s'apprête à nous rapporter de l'argent, à l'exception de Petit Victor, qui bien évidemment sera racheté par l'immense Genoa, 25 millions d'euros. Genoa d'ailleurs où il n'a pas joué, où il joue très peu depuis son arrivée. Bon, c'est un autre débat. Dans le cadre de Gasset, la logique est très simple. Il ne coûte absolument rien. Il ne va pas réclamer 150 personnes pour figurer dans son staff. Il a une connaissance approfondie du championnat de France. Il apporte aussi un style différent par rapport à Gattuso qui, en dépit du fait que son caractère se soit arrondi depuis qu'il est arrondi les angles depuis sa prime jeunesse, bah ça restait quand même un gueulard et un type qui parlait constamment de testostérone, de grinta, d'envie, de combativité, de tout ce que vous voulez. Donc à partir de là, on a un entraîneur qui apportera un style différent et ça n'est pas forcément, c'est pas forcément si intéressant que ça. Je pense d'ailleurs que le fait de mettre certains joueurs en confiance peut être pour eux une bonne façon d'enfin débuter leur saison, voire leur carrière à l'Olympique de Marseille. Je pense notamment à Illiman Ndiaye, pour lequel moi j'ai une très très grande affection et une très bonne image. J'attends toujours de le voir réellement percer. Et pour rebondir sur ton dernier point et la question du projet, moi j'ai ce problème dans la vie, c'est que je suis naturellement optimiste. Et au-delà du fait d'être naturellement optimiste, je peux parfois avoir la tendance à être légèrement crédule. À l'été 2023, quand on avait Pablo Longoria qui nous expliquait, l'été 2022, pardon, Longoria qui nous expliquait en long, en large et en travers l'importance dans le football moderne des données liées aux prestations physiques des joueurs, à l'évolution en ce sens, le besoin de faire plus de courses, des courses plus verticales, un pressing toujours plus intense, etc. Et le fait que ces données-là, en plus d'avoir un impact sportif, avaient un impact financier, alors je l'avoue, il m'avait convaincu. Et ça d'ailleurs en dépit du fait que, à titre personnel, j'ai toujours été beaucoup plus intéressé par un football, disons, raffiné qu'un football combatif. Pep Guardiola, excepté, et ça je sais que Youssef l'a toujours voulu, mais c'est parce que j'aimais pas le Barça. Lara, là-bas, quand j'avais 17 ans, j'aimais pas le Barça. Mais la seule chose qui m'intéresserait pour le prochain entraîneur et pour le prochain projet, si malheureusement il doit se faire avec cette équipe-là, c'est qu'il y ait un minimum de cohérence et de continuité. Il faut que nous l'acceptions. Il y aura encore de grandes vagues de changements à l'été venu. Il faut que nous l'acceptions, il y aura encore un grand chamboulement dans tous les sens, l'entraîneur, le directeur, le PDG, j'en sais rien, le directeur du conseil, peut-être même la forme d'organisation de l'Olympique de Marseille, parce qu'ils adorent ça, passer d'une SAS à je ne sais quoi, mais à une SPA, enfin, bref. Et si on peut avoir, en dépit de tout cela, une ligne claire, tracé, précise en disant voilà, cette saison, le projet ce sera très clairement cela. Et donc, en ce sens, nous avons recruté des profils qui, par ailleurs, pourront s'adapter à un entraîneur qui adopterait le même style de jeu, puisqu'on a eu cette tendance aussi à donner des joueurs spécifiquement pour un coach. Exemple type, Malinowski, qui à la seconde où Tudor était parti, ne servait plus à rien et devait être bazardé. Voilà, si on pouvait avoir des joueurs qui pouvaient s'inscrire un minimum dans la durée, un projet qui pourrait avoir un minimum de consistance, une vision qui pourrait être un minimum tangible, un minimum, dans le sens anglais, soutenable, c'est-à-dire durable, voilà, c'est tout ce que je réclame à titre perso, parce que je n'ai marre d'avoir bien des idées noires à cause de ce club, et j'en ai plus que marre aussi, je pense, et je ne suis pas le seul, d'avoir une impossibilité totale de planification à plus de 3 mois avec un Olympique de Marseille qui, sans aucune raison valable, est passé de progression constante à régression terrible et fracassante en un temps record. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, les frères, et je vous souhaite une très belle soirée.
Mais Walid, comment on va faire? Parce que nous, on aime bien entendre Daniel Balavoine.
C'est-à-dire Daniel Balavoine, alors, dis-moi.
Alors, peut-être une imitation à venir.
On entend Daniel Balavoine que pendant les temps de crise, donc on fait comment si l'OM on n'entend plus Daniel Balavoine, du coup.
Il y a un OM-PSG dans très peu de temps. Je sens que le général Mbabi va se présenter et mettre un quintuplé pour sa tournée d'adieu, comme disaient nos confrères de l'équipe. Donc à cette occasion, je pense qu'on pourra invoquer Balavoine, Johnny Hallyday, qui tu veux.
Super, je suis rassuré.
Voilà. Merci beaucoup, Walid, en tout cas, d'être passé. Si vous voulez aller suivre Walid pour lire ses tweets et écouter ses imitations de Daniel Balavoine et Johnny Hallyday, c'est assez marrant. Ça a tourné, je crois, ce matin sur le Twitter OM. On te remercie énormément, Walid, d'être passé. Tes analyses sont toujours très justes et ça fait super plaisir. Je pense qu'on peut, du coup, embrayer sur le prochain sujet. Le dernier sujet, je pense, le sujet où on va le plus parler, le sujet où il y a le plus de choses à dire, parce qu'on a beau parler de Gennaro Gattuso, on a beau parler des joueurs, de leurs prestations. La vérité, c'est que la saison de l'Olympique de Marseille a été conditionnée par la planification sportive désastreuse de sa direction. Depuis décembre 2022, la direction de l'OM a enchaîné les erreurs majeures. À la fois, ça a commencé avec le mercato de janvier 2023, où on a eu des dépenses astronomiques, avec le recrutement le plus onéreux de l'histoire du club, Victor Vitinha, qui avait nourri énormément d'espoir dans une saison où l'OM pensait jouer le titre, qui finalement n'était qu'un panic buy du dénommé Javier R, qui n'avait tout simplement pas établi de rapport sur le joueur et qui avait juste écouté son scout historique, qui avait dû tomber sur 2-3 matchs d'Europa League. Malinowski, Unai, je ne vais pas dire que c'est un flop, sinon Younes va m'attaquer. Puis ensuite, ce qui s'est passé cet été avec la transition de coach, où messieurs Javier Ribalta et M. Pablo Longoria se sont présentés en conférence de presse pour nous dire que le club avait un mois pour trouver un nouveau coach, qu'ils allaient prendre leur temps, qu'ils allaient prendre quelqu'un qui était dans une filiation de football, je cite, « pimenté, rock'n'roll », chose que Pablo Longoria lui seul, chose dont Pablo Longoria lui seul connaît le secret, la définition. Je ne sais pas du tout ce que c'est que du football rock'n'roll, ni du football pimenté.
On a eu le... C'est pas Marseille, non. En tout cas.
C'est pas pour le football, c'est peut-être pour autre chose.
C'est peut-être pour autre chose. Et on a fini avec Marcelino, peut-être après des refus. Peut-être qu'en fait, c'était juste un jeu de communication, comme ce qui s'est passé pour Gallardo, où en vérité, l'OM a très peu parlé avec Gallardo. Et puis, on se retrouve là, en février 2024. Un Olympique de Marseille qui, sous le début du mandat de Pablo Longoria, a semblé redevenir ambitieux. Où on pensait que l'OM allait retrouver les sommets, se stabiliser dans le top 3 de Ligue 1. On a l'impression que le château de cartes s'est effondré, que ce que les anti-Longoria, les vrais anti-Longoria primaires appelaient un escroc, le Bernard Madoff du football est en train de se révéler. C'est peut-être pas forcément vrai, mais même si c'est un peu agressif envers lui, on va essayer d'être objectif sur tout ça. Walid a souligné le problème de l'instabilité au club. C'est vraiment ce qui est relevé par tout le monde. Nous, en premier, on en parlait cet été au niveau de l'instabilité d'effectifs, le manque de continuité que moi-même, personnellement, j'avais évoqué dans une capsule sur un stream de Youth. Romain Molina vient de sortir une vidéo. Il vient de sortir une vidéo où il nous dit que Pablo Longoria est fatigué, ou que Pablo Longoria est lessivé, qu'il a un peu perdu le pouvoir au profit de Tessier, qu'on a évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en pense du coup du futur de l'OM avec tout ce qui se passe en ce moment, toutes les erreurs qui ont été réalisées sur les derniers mois, à quoi on s'attend? Est-ce qu'on est encore face à un énième renouveau, des énièmes saisons de transition qui nous attendent? Qui est le responsable principal? Est-ce que c'est vraiment Pablo Longoria? Est-ce qu'il mérite de se faire virer, enfin Pablo Longoria par Franck McCourt? Est-ce qu'il doit démissionner? Je vous pose la question dans ce long sujet du coup sur le projet sportif de l'Olympique de Marseille. Je vais commencer par quelqu'un qui, je pense, a énormément de choses à dire, qui est plutôt d'accord avec moi, c'est Marouane. Marouane, dis-nous tout sur ce que tu penses du projet de Monsieur Pablo Longoria.
Oula, je vais essayer de pas être trop long comme à mon habitude, ou pas comme à mon habitude justement, parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire sur le projet Pablo Longoria. Je pense qu'il est arrivé avec beaucoup d'espoir, parce qu'on sortait quand même d'une décennie assez compliquée, que ce soit avec La Brune qui faisait des catastrophes, puis réussissait à revenir, puis rebelote, ensuite Jacques-Henri Roux qui était la farce qu'on connaît. Et finalement, Pablo Longoria donc est arrivé, et donc avec la promesse d'une ère nouvelle à l'Olympique de Marseille, beaucoup d'espoir, des premières années prometteuses, deux premières années avec mon cher et tendre André Villas-Boas qui a inauguré ces deux premières années dans le fracas, puisqu'il est parti assez rapidement. Sampaoli et Tudor sont arrivés, on a construit des choses intéressantes dans le club, pour derrière entamer finalement à cette frontière, je dirais, dans le projet Longoria avec l'arrivée de Javier Ribalta, qui elle a rebattu les cartes. On est beaucoup plus passé dans un club qui voit à court terme, avec justement cette lessiveuse qui existait déjà certes, mais qui a été vraiment institutionnalisée ensuite, parce que finalement cette instabilité au début, on nous la vendait comme une nécessité économique pour le club, puisqu'on devait faire des coûts, on devait faire des coûts comptables pour que derrière garder une certaine liberté financière et rester compétitif. Mais le temps est passé, ça a continué, et finalement on s'aperçoit que ce manque de fil rouge, c'est quand même devenu la vision du club, et à tel point qu'on se demande finalement, après toutes ces années, la majorité du temps qu'on a passé, finalement, c'était avec cette vision-là, avec cette certitude qu'en fait, il n'y en avait pas à l'Olympique de Marseille. Et derrière, en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est quand même temps de se poser des questions dans une saison où on va avoir un sixième coach et cet été un septième coach sous le mandat Longoria. Qu'est-ce qu'a fait véritablement en fait Pablo Longoria aujourd'hui? Quand il partira, qu'est-ce qu'il va laisser? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même investi de manière substantielle sur le marché des transferts. Ça doit être autour de 300 millions d'euros en tout. Et aujourd'hui, quand on regarde ce que ça donne, 300 millions d'euros en tout sur le terrain, c'est pas grand-chose. Tu fais quelques podiums, certes, c'était pas arrivé depuis un petit moment, mais c'était pas arrivé depuis un petit moment aussi qu'on ait autant de surface sur le plan financier, et des effectifs entre guillemets plutôt stables en termes de qualité, voire même qui progressent d'année en année, on va le dire, parce que Sampaoli avait un effectif, Tudor en avait un autre, et je pense que Marcelino et cette saison Gattuso avait un effectif qui pour moi était encore meilleur et qui pouvait potentiellement, dans une bonne dynamique, ce qu'on n'a jamais eu, viser la lutte pour le titre, ou du moins essayer de chatouiller un petit peu le PSG. et être compétitif, ou du moins pas ridicule, contrairement aux années précédentes en Coupe d'Europe. Et finalement, on se retrouve à regarder nos doigts, à compter un petit peu ce qui s'est passé, et on voit qu'en fait, l'OM n'a jamais réussi à être un dauphin solide, n'a jamais même réussi à accrocher, à être un régulier deuxième en Ligue 1, chose qu'il aurait dû être, au vu de la taille du club, au vu des moyens qui ont été investis, ou du moins, finalement, à se battre pour la deuxième place, ou tenir à la dragée haute au PSG sur l'étendue d'une saison. Et derrière, aujourd'hui, on se retrouve un petit peu le nez dans le caca, dans cette saison qui est, je pense, une catastrophe industrielle, avec cet enchaînement d'entraîneurs, des projets qui changent systématiquement, des communications qui sont, moi, je pense, en tout cas, dignes d'un politique. Hein. Quand on regarde à chaque fois les changements du club, ils sont vendus comme des choses cohérentes. Quand Tudor arrive, on nous vend une prospection de qu'est-ce qu'est le football aujourd'hui, quels sont les profils qu'on peut valoriser facilement, c'est-à-dire des profils verticaux, physiques, complets. Et derrière, on enchaîne sur complètement autre chose avec Marcelino, où on nous vend encore une fois une mise en cohérence, où finalement on se dit, on fait le calcul que Marcelino, c'est Tudor, mais avec un côté plus humain, alors même que le club a tenté de négocier Marcelino Gallardo pendant quelques semaines, mais finalement ils ont pris une veste. Et pour ensuite dire, ça n'a jamais été une piste. Pareil pour le cas Terem Moffi, qui a entre guillemets utilisé du même stratagème. Le joueur met une veste, on remet le coup sur l'agent, alors que depuis le départ, le joueur ne voulait pas venir, et tu te retrouves avec Vitinha derrière, qui certes, moi vous connaissez, j'ai toujours eu de l'affection pour Vitinha, mais qui n'a aucun rapport avec Terem Moffi. Et derrière, à chaque fois, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de direction. Et quand on fait les comptes, Pablo Longoria, aujourd'hui, moi, je me demande si je suis Franck McCourt et que je lui confie mes deniers, que je sors de cette saison-là, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Est-ce que derrière, je peux continuer à faire confiance à quelqu'un qui me vend à chaque fois des grandes saisons, qui se fait passer, mais disons se présente comme quelqu'un qui a une connaissance fine du marché? Et derrière, on a toujours l'impression de devoir réagir, de subir le départ des entraîneurs, de subir le départ des joueurs, d'être à la merci du marché. Et finalement, après autant de millions, autant de projets écumés, tu n'as toujours pas réussi à gagner ton indépendance, voire pire même. Moi, je trouve en tout cas, et je m'arrêterai sur ce point-là, que sur le plan de la structure, on a régressé. Après avoir commencé à bâtir une cellule de recrutement, un organigramme solide, on a tout déconstruit depuis l'arrivée de Travery Balta, et j'ai l'impression qu'on a intérimé, pour inventer ce mot, c'est-à-dire qu'on a fait de l'OM une société d'intérim, avec des prestataires de services qui ont réduit à peau de chagrin. Aujourd'hui, quand on regarde la cellule de recrutement, même prenons la figure de Stéphane Tessier. Stéphane Tessier, c'est un agent, d'accord. Mehdi Benassia, et c'était un conseiller, et moi je dis pas que ces gens-là sont venus pour ça, hein. Ces gens-là font leur carrière, j'ai rien contre eux. Je parle de Mehdi Benassia, je parle de même de Tessier ou d'un autre, ces gens qui sont là, on les contacte. Mais quand on fait le constat structurel, c'est uniquement des gens qui sont dans la représentation d'intérêts de joueurs. On n'a pas de joueurs qui sont des véritables scouts, des membres du staff, pardon, qui sont de véritables scouts. On n'a pas des gens qui sont là pour faire un travail de fond. On a uniquement des gens qui sont capables de faire du conjoncturel, ou du moins qui sont a priori spécialisés là-dedans. Et derrière, tu regardes le centre de formation aussi. On a gagné des titres récemment en jeunes. Mais quand on regarde les grosses têtes, entre guillemets, de ces générations-là, c'est presque quasi exclusivement des joueurs qui sont venus lors des deux premières années du mandat Longoria. Derrière, on se demande ce qui va se passer. Des entraîneurs de jeunes partent, reviennent. On a 3 ou 4 directeurs du centre qui se sont écumés, sans qu'on voit véritablement une vision. L'OM, et ça pour le coup, pour parler régulièrement à des recruteurs, ils avaient réussi à se replacer dans le domaine du scouting, et même ils avaient convaincu des talents assez importants. Hein. Il y a des noms qui ne sont pas sortis, mais l'OM a été très avancé avec des très très grands talents aujourd'hui de Ligue 1 quand ils étaient en jeunes. Enzo Sternal ont réussi à le convaincre, Daryl Balcola aussi. Et aujourd'hui, finalement, c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas vraiment de vision. Et pour moi, je me demande, et c'est pour ça que je n'arrive pas à me projeter, c'est si nous, finalement, le spectateur lambda, le supporter, le suiveur du club lambda, on n'arrive pas vraiment à se positionner parce que justement, on a des incertitudes autour du club, tu peux te demander quel coach tu vas arriver à aller chercher, les joueurs au sein du club, qu'est-ce qui va se passer, même les employés, hein, parce qu'il faut savoir que l'OM, il y a un énorme turnover aussi sur le plan du staff du côté sportif. Il y a même si régulièrement des cas qui vont au prud'homme où l'OM perd d'ailleurs. Et tu arrives avec cette vision où moi, plus que l'entraîneur ou le projet vers lequel on va tendre, je me demande, Longoria, est-ce que d'une il va rester? Où est-ce qu'il nous emmène? Quel type d'entraîneur on va cibler? Parce que finalement, on peut même plus se fier à ce qu'il dit, hein. Parce qu'il nous dit que football rock'n'roll est épicé, comme tu disais, Ariles, mais ça change d'un mois à l'autre. Donc moi, les amis, c'est plutôt ça que j'interroge, plutôt que de me... Enfin, que j'arrive pas en tout cas à me projeter au-delà de, on a gassé, son contrat va se finir. Derrière, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va prendre Galtier? Est-ce qu'on va aller sur Fonseca? Fonseca, ben, finalement, est-ce qu'on ne l'a pas manqué avec, cette saison catastrophe? Est-ce qu'en virant Gattuso maintenant, on est obligé de prendre un entraîneur qui va boucher derrière l'horizon à d'autres ensuite? Moi, les amis, j'en sais rien. Et c'est ça qui me dérange le plus en fait, dans le cas Longoria. C'est que moi, j'en ai marre en fait, de cette instabilité. Certains l'expliquent par l'instabilité structurelle du club, qui est due au contexte, le milieu, les supporters, etc., etc. Mais je pense aujourd'hui qu'on peut quand même légitimement poser le débat autour de la gestion de Pablo Longoria.
Juste, je vais laisser Well parce qu'il lève la main. Well, si tu veux réagir à tout ce qu'a dit Marouane, ce qui était très, 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 très intéressant. Well, je te laisse.
En grande partie, je suis d'accord avec Marouane, juste sur une seule chose. Marouane, tu disais que notre effectif, il était potentiellement meilleur. J'arrive pas à voir où exactement, en fait, de mon point de vue. Je pense qu'on est, excuse-moi, on est pourri littéralement, genre, et que notre effectif l'année dernière et l'année d'avant, il est bien meilleur, et qu'on a fait littéralement que régresser depuis le départ de Sampaoli.
Ok, non, mais après ça, c'est un point de détail, c'est pas très très important dans le propos, mais bon, après, je pourrais te répondre sur l'effectif, mais je pense que derrière, on dévirait sur d'autres choses, et je pense que c'est bien sur...
Non, ça fait partie de la chose, Marouane, dans le sens où moi, je le vois comme étant juste une continuité de bêtises sur bêtises, en fait. C'est ça où je veux en venir. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois.
C'est une continuité que tu es en train de régresser littéralement depuis 2 ans, ou je ne sais combien là, et que tu as eu une très belle année, et petit à petit, tu es en train de descendre, et ça revient à dire que structurellement,
tu as un problème. Ok, ah oui, donc en fait, toi, tu fais le même constat, mais tu dis qu'en fait, l'effectif, il démontre ce constat, c'est ça?
Non, mais clairement, okay. Jean, c'est clairement ça pour moi, tu vois.
Justement, par rapport à l'effectif, toi, tu penses qu'il a décliné. Moi, ce que j'ai relevé comme point négatif sur Pablo Longoria, après, ça peut paraître comme un avis très, très, très anti-Longoria. Je pense que déjà, sur le plan sportif, on est tous d'accord pour observer un déclin depuis la saison Sampaoli. On se retrouve aujourd'hui dans une saison où l'OM est en fin de première partie de tableau, presque en deuxième partie de tableau, où l'OM est éliminé au premier tour, au deuxième tour de la Coupe de France contre Rennes. Et on en Coupe d'Europe, l'OM ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions et va jouer ce match retour jeudi face au Shakhtar. Sur le plan financier, on peut aussi parler de ce qui s'est passé avec l'encadrement de la masse salariale par la DNCG. L'OM s'était plutôt amélioré sur le plan financier et économique avec des nouveaux partenariats, même un club qui était presque toujours dans le vert. On pensait que Franck Macourt n'avait plus à remettre la main à la poche. Aujourd'hui, l'OM est encadré par la DNCG. Mais j'ai quand même envie de revenir sur la planification sportive, parce que si on doit faire le bilan de ce qui s'est passé sur la dernière année, sur les 12 derniers mois, je pense que ça a commencé à vriller fin décembre 2022, peut-être même sur le mercato d'été 2022. Et vu qu'on a la chance d'avoir Ismo qui est avec nous, j'espère d'ailleurs que tu vas bien Ismo, qui est spécialisé donc dans le scouting et dans la recherche, dans la recherche de pépites, dans l'analyse également, d'équipe, de joueurs, d'entraîneurs.
Je profite juste pour vous dire que je vais me déconnecter, je ne peux pas rester plus longtemps.
Vas-y Marouane.
Je suis très content que Ismo qui prenne la suite. J'espère qu'il fera le show et qu'il nous apportera ses lumières habituelles. Voilà. Bonne soirée les amis.
Merci en tout cas Marouane.
Merci Marouane.
Allez, salam alaikum, bonne soirée.
Merci Mohamed. Merci Marouane et Mohamed.
Les gars, je dois partir. Merci à vous, hein. Bonne soirée. Merci pour l'invitation. Et on se voit, on se parle bientôt de toute façon. Merci à tous.
N'hésite pas à repasser, Mohamed, c'était vraiment super. N'hésite pas à repasser. On a donc deux super intervenants qui nous quittent et un super intervenant qui nous rejoint.
Dis-le que c'est les plus nuls qui sont restés. Vas-y, dis-le. Hein.
Non.
Il fait faire un sans space, lui. C'est quoi ça?
Et oublie pas de dire qu'Ismo il est spécialiste fast-food et restauration aussi. Hein.
Ouais, il le fait sur TikTok. Ouais. Franchement, ça m'a un peu marqué sur
TikTok. Il est sur TikTok, tous les terrains. Il est aussi sur un autre terrain, mais je vais pas le dire en space.
J'ai vraiment téléchargé l'application. Pour vraiment, c'est pas un mensonge.
Juste pour lui,
tu vois, pour que je te aide. Mais j'ai téléchargé l'application TikTok que je n'utilise jamais pour regarder tes vidéos. Et malheureusement, je crois que le compte a sauté. Mais on va te laisser t'exprimer sur ce que tu penses, Ismo, des derniers mercato de l'OM. Et même
le compte a sauté juste après que tu te sois abonné. Bizarre, en vrai.
Bizarre.
Tiens. Il note, hein, j'espère, Ismo.
Non, je vous écoute.
dans un silence religieux. J'attends une petite ouverture pour pouvoir m'exprimer, mais vous êtes très très blagueur ce soir, donc je vous écoute juste là pour l'instant. Mais donc, dis-moi, Massilia, tu veux que je parle de quoi spécifique?
On avait déjà discuté, toi et moi, de la planification sportive du club. Je crois que tu avais le même avis que nous, globalement, que c'était une planification sportive qui était ratée. Comment tu analyses ça, toi, avec ton regard, le fait que tu analyses régulièrement des recrutements, des joueurs, les derniers mercatos de l'OM, et même ce déclin sportif et en termes d'effectifs que connaît l'OM sur les derniers mois?
Bon. Finalement, moi, ce que je vais dire, je vais pas inventer l'eau chaude, hein, je pense que je vais répéter ce qui a été dit depuis tout à l'heure dans le space. Je viens à peine d'arriver, donc je suis désolé hein, si je répète des banalités. Mais moi, je trouve que les joueurs qui ont été recrutés pour la plupart, à part quelques noms qui me déplaisent, je trouve que c'est globalement des bons joueurs de foot. Mais le problème qui est visible et qui est perceptible rien que par les coachs qui viennent et qui se suivent, c'est que on a des joueurs qui, lorsqu'ils sont recrutés, souvent ils sont assez spécifiques. Par exemple, à l'époque de Sampaoli, on fait un recrutement pour le jeu de position. Puis Sampaoli s'en va. On a de la chance parce que au moment où Sampaoli s'en va, je crois qu'on a quelque chose du genre 60% d'effectif qui est en fin de contrat ou quelque chose dans le genre. Donc, ça fait que tu peux renouveler l'effectif sans trop de problèmes. Donc, ensuite, il y a Tudor qui arrive. D'ailleurs, ce virage-là, il m'avait plu pour le coup parce qu'on était sur un football beaucoup plus intense, un peu moins méthodique, un peu moins calculateur. Et j'aimais bien les explications que Longoria donnait à l'époque parce que elles étaient en accord avec les miennes. Je trouvais pas qu'il avait spécialement raison. Je trouvais juste que sa vision du foot collait avec la mienne. Donc j'étais un peu emballé par le virage en question, comprenez. Maintenant, le problème, c'est que Tudor est parti et on a récupéré un entraîneur qui ne collait pas du tout à cette vision de foot-là. Sachant que l'année dernière, l'effectif de Marseille, aussi qualitatif soit-il, il avait des manques criants. On manquait d'un latéral gauche, enfin un latéral gauche, une doublure pour le poste de latéral gauche. Au niveau du poste de neuf, c'était pas la folie, malgré le fait que j'ai survendu un certain portugais, donc on n'en reparlera pas trop. Il y a aussi au poste de milieu offensif, où on était un peu ric-rac, ça comblait comme on pouvait combler. Maintenant, en fait, le vrai problème à ce niveau-là, c'est que Tudor part, et la même année où il prend la décision de s'en aller, on a une opportunité de marché, si je peux appeler ça comme ça, avec Glasner qui quitte Francfort. Et on peut être en accord avec ce que Glasner y fait ou pas sur le terrain, mais ça se rapproche beaucoup de ce que Tudor fait. Et je pense qu'il y avait une solution toute prête pour le club, c'était se positionner sur Glasner, et continuer avec ce qui a été fait par le passé. Et en fait, le problème que je trouve à l'heure actuelle dans cet Olympique de Marseille-là, c'est, comme vous l'avez dit, peut-être le manque de planification sportive. Je ne sais pas ce qui motive à chaque fois Pablo Longoria quand il décide de changer de projet sportif du jour au lendemain. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Longoria, on a écouté ses conférences de presse, on voit globalement la vision qu'il a du foot, et c'est une vision qui est cohérente et qui se rapproche de ce que le foot actuel demande à un club comme l'Olympique de Marseille. On peut ne pas être d'accord avec sa logique de trading, etc., mais pour un club comme Marseille à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faut finalement pour survivre. Et j'arrive pas à comprendre comment, en ayant conscience de cette réalité et puis changer du jour au lendemain continuellement de projets sportifs. Donc ça fait que aujourd'hui, quand on regarde l'effectif et que j'entends certains dire que l'effectif il est pas bon, que ça manque de qualité, etc., je pense que faut pas se laisser fouler par la perception que Gattuso a pu laisser transparaître de cet effectif là. Parce qu'il y a un moment où Gattuso, il n'a pas toujours été un clown à Marseille, malgré malgré la forme récente, quand il est passé en 3-5-2, on pouvait clairement voir les qualités de l'effectif. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit passé en 3-5-2, c'est assez, disons, ironique, même si ce n'était pas vraiment le dispositif de Tudor l'année dernière, mais c'est ce qui se rapprochait le plus. Et c'est là où la majorité des joueurs avaient des repères. Et je pense que ça a été finalement une bonne leçon pour Pablo, parce que ça lui a permis, enfin je le dis en toute humilité, mais je pense que ça lui a permis de comprendre que finalement, ces joueurs, Enfin, on n'est pas sur Football Manager, tout simplement. Quoi. Les joueurs ont certains repères, et il est beaucoup plus simple pour un joueur de performer dans un contexte dans lequel il a connu du succès, plutôt que d'à chaque fois réinventer le foot, lui imposer un changement, etc., etc. Il y a très peu de joueurs qui sont capables de s'adapter à différents contextes, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est nécessaire finalement d'avoir ce projet de jeu, parce que ça te permet de réduire l'incertitude sur un transfert, surtout au niveau de l'Olympique de Marseille. Un club comme un club au niveau du standing du Real de Madrid ou de Manchester City, disons, cette incertitude là elle est beaucoup moindre parce que c'est des joueurs de qualité supérieure qui sont capables de s'adapter à beaucoup plus de contextes. Mais au niveau de l'Olympique de Marseille, quand tu veux valoriser des actifs pour les vendre et ensuite pouvoir gagner en réputation, en standing, tu es obligé de créer des contextes favorables, de sorte à magnifier le joueur, le rendre plus beau qu'il n'est réellement, pour pouvoir le vendre à son prix fort. Par exemple, Lyon, ils ont su bien le faire à une époque. Monaco, ils ont su bien le faire à une époque. Un mec comme Tchemou et Bakayoko, par exemple, il est vendu 45 millions, parce qu'il crée le contexte qui laisse penser que Bakayoko, c'est un joueur qui vaut 45 millions aujourd'hui, mais qui un jour pourra valoir 80 millions. Aujourd'hui, on a investi 17 millions sur Illiman Ndiaye, et il y a plein de gens dans la team OM, et je n'en reviens même pas, qui pensent que lui, il n'en vaut même pas 5. Mais tout ça, finalement, c'est une histoire de contexte. Tu vas chercher un joueur qui a vécu ses meilleures saisons dans un dispositif à 3 où c'était la pointe d'un tandem en pointe, où parfois il était en soutien d'un autre attaquant. Et là, tu le fais venir et tu le fais jouer sur le côté droit, par exemple. Mais comment tu peux t'attendre à ce qu'il ait le même rendement que à Sheffield ? Certains trouveront la réponse toute simple du fait que ouais, mais c'était la Championship, c'est beaucoup plus facile. Mais les gars, la Championship, c'est pas du tout un championnat simple. Enfin, regardez, rien que je vais vous donner l'exemple de Victor Gyökeres. Aujourd'hui, tout le monde dit ouais, super attaquant, etc., etc. Mais lui aussi, il vient de Championship. Il a fait 2 saisons en Championship. Il a montré à tout le monde l'étendue de son talent. Aujourd'hui, il est au Sporting et il doit valoir 80, voire 100 millions d'euros. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, il peut aussi bien performer au Sporting qu'il performait à Coventry City, c'est tout simplement parce que le Sporting l'a mis dans des conditions qui... En fait, il n'a pas perdu ses repères en arrivant au Sporting. Il est arrivé dans un collectif qui tournait bien, dans un collectif qui tourne globalement autour de lui et qui lui permet de maximiser la majorité de ses compétences. Aujourd'hui, si tu mets Gyökeres et que tu le mets à l'Olympique de Marseille, enfin dans l'Olympique de Marseille de Gattuso, il aurait sûrement toutes les peines du monde à montrer l'étendue de ses qualités. Et il y aurait un grand nombre de personnes ici qui diraient « Ah, vous voyez, vous êtes là, vous allez chercher des joueurs en deuxième division, ils n'ont pas le niveau pour l'Olympique de Marseille, tu ne peux pas aller en Ligue des Champions avec eux, etc. etc. » Mais le problème, ce n'est pas d'aller chercher des joueurs en deuxième division, le problème, c'est d'aller chercher des joueurs dans un contexte qui leur a été favorable, les mettre dans un contexte défavorable et attendre d'eux qu'ils finissent par performer. Donc, toutes les explications à propos du fait que les supporters puissent apporter de l'instabilité dans le club, etc., etc., c'est des choses qui sont intelligibles. On peut les entendre, mais elles n'expliquent pas tout. C'est pas parce que les supporters en début de saison sont allés bousculer Pablo Longoria que aujourd'hui l'Olympique de Marseille fait une mauvaise saison. Si aujourd'hui l'Olympique de Marseille fait une mauvaise saison, c'est surtout parce que à la base, quand Pablo Longoria va chercher Marcelino, c'est pas un bon choix. Et ça aurait pas été un bon choix, même si Marcelino à l'heure actuelle il aurait été au club et que le club il aurait été quatrième de Ligue 1 ou je sais pas, je dis une bêtise, troisième. C'est pas parce que tu fais un mauvais choix et que le mauvais choix il fonctionne que c'est un choix qu'il faut répéter. Déjà, le fait de passer de Sampaoli à Tudor, malgré le fait que à l'époque j'avais fait un petit papier sur Tudor parce que j'appréciais le style de jeu qui proposait, je trouvais déjà que c'était un mauvais choix. Parce que sur cette fenêtre-là, il y avait la possibilité de faire des entraîneurs qui se rapprochaient du style de jeu de Sampaoli et qui avaient cette faculté-là de mettre un peu plus d'intensité, un peu plus de rythme. Et donc, qui aurait permis à certains joueurs comme, je dis une bêtise, mais Gerson, même si je ne le porte pas beaucoup dans mon cœur, ou comme Payet, de rester à un niveau de performance convenable, parce que y a des repères, c'est un style de jeu qu'ils apprécient, etc., etc. Et ça aurait peut-être permis de vendre un mec comme Gerson, bah, peut-être 10 millions de plus que au prix d'achat. Ou un mec comme... qui est-ce qui est parti à ce moment-là? Bref, j'ai pas de nom en tête. Mais tout ça pour dire que, à mes yeux, et c'est peut-être une vision que vous ne partagez pas, mais c'est purement personnel, mais à mes yeux, pour créer les meilleures conditions possibles pour qu'un joueur puisse s'épanouir dans ton club, il faut déjà... Il faut avoir un projet équipe et un projet tactique clair, de sorte à ce que quand tu perds ton entraîneur ou quand tu perds un joueur, tu puisses facilement le remplacer. Le problème aujourd'hui à l'OM, c'est que ce soit les entraîneurs ou les joueurs, ils sont difficilement remplaçables, parce que malheureusement, Pablo Longoria ne semble pas avoir les idées aussi claires qu'il ne le laisse paraître. Donc j'ai fait une tirade un peu longue, parce que je vous mens pas, je ne savais pas par où commencer. Donc ça fait que je suis allé un peu dans tous les sens. Donc là, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre et puis on va peut-être alimenter le débat
Bah, comme. En tout cas, merci beaucoup Ismo, parce que
Ismo?
t'as bien résumé tout ça. Bon, vas-y, ouais.
Non, non, juste, je trouve que c'est ultra intéressant, en particulier la dernière partie où il explique que Longoria n'a pas les idées aussi claires qu'il ne le laisse paraître. Littéralement, c'est ce que je pense aussi, Ismo. Vraiment, c'est. Ça se voit. Ça se voit, tu vois. Genre, dans tous les virages qu'il prend, c'est exactement ça. Pardon, j'ai ma femme qui fait du bruit à côté, donc voilà. Dans tous les virages sportifs qu'il prend, dans toutes les décisions, ça se voit que c'est pas quelqu'un qui est sûr de ce qu'il fait encore.
Mais surtout, Well, comme l'a bien dit Ismo, au niveau de la transition d'entraîneur, il y a eu des changements, il y a eu passage de Sampaoli à Tudor, il y a eu de Tudor à Marcelino. Et même si on s'intéresse au choix, on sait que par exemple que bah, Tudor, c'est un choix de Ribalta. Ensuite, Marcelino, c'est un choix unilatéral de Longoria qui consulte pas Ribalta et qui prend en fait un coach qu'il connaît très bien, moi je trouve que c'est un bon tacticien du championnat espagnol, c'est un bon entraîneur du championnat espagnol, mais qui correspondait pas à la ligne
Ouais, la question,
directrice
elle est
qui
même
avait
pas
été
là.
un peu ouais qui avait qui, la ligne directrice mise en place par Ribalta ou bah, comme l'a dit Ismo, comme l'a dit Walid tout à l'heure, bah, l'idée d'un football intense, physique, qui correspond un peu à la vision d'un OM outsider qui va jouer un jeu spécifique, physique et athlétique, où on fait du pressing, de la transition, parce qu'on ne peut pas se payer les joueurs que Sampaoli veut pour faire son jeu de possession et de position. Et tu changes complètement en prenant un entraîneur qui a plutôt déjà sur le plan défensif, c'est différent, c'est pas du marquage individuel, même si on pouvait sauter ça, c'est pas un pressing tout terrain, c'est vraiment particulier, c'est un système qu'on pourrait un peu dire dépassé pour le football moderne. Il y a peu d'entraîneurs qui l'utilisent encore, le 4-4-2 de Marcelino Garcia, et c'est vrai que ça interroge. Juste, Ismo, je sais que tu voulais que j'interroge un autre intervenant, mais du coup, c'est Yous qui me l'a demandé en privé. Et de base, tu étais venu pour ça dans ce space.
Non,
Tu avais
mais
beaucoup
juste
parlé
parce que je
de.
trouvais ça intéressant d'avoir son avis sur le cassette.
Ouais, ben non, mais
Il
t'as raison,
connaît
Yous.
très bien
Mais t'as
Yous
raison, mais c'est
Tomorien,
pour. C'est pour ça qu'on l'a ramené, c'est parce que Ismo, en général, a une analyse très fine sur le football en général, mais il y a surtout le nouvel homme qui doit incarner le projet de jeu de l'Olympique de Marseille sur les 6 prochains mois, qui est Jean-Louis Gasset. Loris Mo, juste pour prévenir nos auditeurs, donc tu as la chance d'être ivoirien et d'avoir remporté une troisième Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette Coupe d'Afrique des Nations a donc vu Jean-Louis Gasset s'asseoir sur le banc des éléphants au cours des trois premières journées, au cours de la phase de groupe. Déjà, comment tu réagis à cette nomination de Jean-Louis Gasset? J'ai vu que tu avais tweeté ça pour troll, tu avais tweeté l'idée pour troll il y a quelques semaines. Comment tu réagis à cette nomination et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire qui va donc arriver à l'OM?
Déjà, avant même de commencer à parler du tacticien ou du meneur d'homme que Jean-Louis Gasset il est, je tiens à dire que je trouve que le choix déjà d'avoir pris la décision de prendre un intérimaire plutôt que d'essayer de bâtir avec ce qui reste là sur le marché des transferts, c'est une bonne idée. C'est une bonne décision et c'était pour moi à l'heure actuelle la meilleure des choses à faire. Parce qu'il y a un effectif qualitatif. Et ce n'est pas parce que cette saison-là est ruinée qu'il faut prendre le pari de ruiner toutes les autres qui viennent. Donc, quand il y a des choses de bien qui sont faites, entre guillemets, il faut commencer par les féliciter. Et je commence par les féliciter. Maintenant, ensuite, pour parler de Jean-Louis Gasset, ça va peut-être en surprendre plus d'un ici. Mais moi, c'est un coach que j'ai bien apprécié. Enfin, le passage qu'il a fait en Côte d'Ivoire, j'ai globalement apprécié. Les défaites qu'il a pu avoir en Côte d'Ivoire, par exemple le 3-0 face à la Zambie, sont facilement explicables. Il y a eu un gros turnover, il a voulu tester des choses, etc. Donc ça fait qu'il y a des trucs qui, lorsqu'on n'a pas le contexte, peuvent choquer ou peuvent surprendre. Mais quand on regarde dans les grandes lignes, le passage de Gasset, il est correct. Il est suffisant et surtout, il a posé les bonnes bases pour un avenir sain. Disons qu'il est arrivé à un niveau, enfin, il est arrivé à un moment où la Côte d'Ivoire avait, je sais pas, cherché un peu. Et puis, il est revenu mettre, il a assaini le tout. Voilà. Donc, je pense que même si c'est pas lui qui soulève la coupe, il a fait sa part du marché. Je dirais pas qu'il a aider à 80% le fait qu'on prenne la coupe, mais il a fait sa part du boulot, donc 30% déjà, c'est bien pour lui. Maintenant, pour parler du tacticien et du coach qu'il est, je trouve que c'est un bon coach qui a beaucoup de ressources tactiques. Donc, rien qu'à ce niveau-là, je suis convaincu en fait par le choix, parce que c'est un coach qui peut aussi, entre le 4-3-3, le 4-2-3-1, le 3-5-2, pas le 3-5-2, le 3-4-3 et le 3-4-2-1. En un an et demi chez nous, je crois qu'il a fait 19, voire 20 matchs chez nous. Et sur ce petit échantillon-là, on a pu voir la plupart de cet éventail-là de coach. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est un coach qui est capable finalement de s'adapter à la matière qu'il a. S'il a testé tout ça, c'était pour voir finalement dans quel contexte, dans quel dispositif notre sélection était capable de mieux s'exprimer. Malheureusement, la CAN est arrivée et il a eu du mal à gérer toute cette pression-là. Maintenant, je vais mettre une petite parenthèse sur la pression qu'il a eu à gérer pendant la CAN. Je tiens à dire que les Marseillais ont tendance à surestimer la pression qu'ils mettent sur leur club. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de pression à l'Olympique de Marseille, loin de là, mais la pression qu'il y avait pour la CAN à domicile avec une équipe comme celle-ci et la pression qu'il va vivre à l'Olympique de Marseille pour les trois derniers mois où quasi tous les supporters sont persuadés qu'il n'y a plus rien à jouer, il n'y a pas grand-chose de comparable, je pense. Surtout que s'il y a bien un truc sur lequel je peux dire que Longoria a su bien faire son travail, c'est de calmer, mais je dirais qu'il a aseptisé les supporters d'une façon. Il y a des choses que le supporter à Marseille accepte aujourd'hui qu'il n'accepterait pas il y a 6 ou 7 ans. Donc, je vais le dire d'une façon un peu taquine, mais le supporter de l'Olympique de Marseille n'est pas la terreur qu'il pense être. Donc, rien que pour ça, tranquille au niveau de la pression, je pense qu'il va pouvoir la gérer. Et maintenant, au niveau de l'effectif, comme moi je le pense, je pense qu'il est qualitatif. Je ne dirais pas très qualitatif, mais il est qualitatif. Et un entraîneur comme Jean-Luc Gasset est en capacité de, je ne dirais pas Ouais, si. Il est en capacité de... Non, pas maximiser. Maximiser, c'est un grand terme, mais je dirais optimiser ce qui est optimisé à l'heure actuelle. Donc, il y a beaucoup plus de peur que de mal. Gasset, ce n'est pas un mauvais coach en soi. Quand c'est un bon noyau, il est capable de faire quelque chose d'intéressant. Moi, de mon côté, je pense que l'intérim qu'il va faire, il sera bon. Il permettra d'assainir le club pour l'entraîneur qui vient par la suite, surtout qu'on parle beaucoup de Paulo Fonseca pour la succession. Et avoir un intérimaire comme Gasset, ce serait intéressant parce que c'est un entraîneur qui est adepte du beau jeu. Quoi qu'on en dise, il aime bien aller chercher les équipes adverses haut, garder le ballon. Il sait créer des occasions. Par exemple, là d'ailleurs, il y en a beaucoup qui prennent le 4-0 face à la Guinée équatoriale comme preuve que Jean-Louis Gasset, c'est un mauvais coach. Et pour tous ceux qui ont vécu le match, ils savent que le 4-0, il est très très cher payé. La Côte d'Ivoire se crée un nombre incalculable d'occasions en première mi-temps. Malheureusement, il manquait le joueur capable de convertir ses occasions au fond du but. Aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille,
Pépé, je pense... Pépé aurait dû tomber, Ismo. Il faut le dire. Pépé aurait dû tomber.
Ouais, il aurait dû tomber, mais finalement, quand je regarde la fin de la compétition, je me dis, bon, c'est pas si mauvaise chose que ça qu'il soit pas tombé, tu vois. Mais voilà, donc le match, je vois plein de détails. Et je pense que dans un contexte différent, comme celui de l'Olympique de Marseille à l'heure actuelle, ben y a pas de raison finalement que la saison se finisse mal, à part si, ben, je sais pas, à tout hasard, Mehdi Benatia continue à sortir en presse pour descendre publiquement ses joueurs. Ou je dis Mehdi Benatia, mais Pablo Longoré, il a fait le jeu aussi. Et Paulo Lopez qui a rajouté un peu de l'huile sur le feu, on ne sait pour quelle raison. Mais il y a plein de choses comme ça qui, si tu veux maximiser la réussite de ton club, bah, il faut arrêter de faire, tout simplement. Parce que là, j'ai une bêtise, mais demain, le conseiller sportif du club et le président chargent un joueur. Le joueur en question, bah, il commence à faire des performances de merde. Qu'est-ce qui va se passer? Les supporters, ils vont commencer à charger le joueur en plus de ça. Et quand le joueur en question s'éclose et tout le monde connaît la fragilité psychologique de Klose, bah finalement en fait on va inclure les joueurs dans des cercles vicieux et puis on va se plaindre finalement que y a rien qui aille dans le club. Donc commençons par assainir tout ce qui est autour du club, mettons les joueurs dans des conditions les plus optimales possibles et tout ira pour le mieux. En tout cas pour moi à l'heure actuelle, Jean-Louis Gasset, pour faire de l'intérim de maintenant jusqu'à la fin de la saison, il y a vraiment pas de quoi s'alarmer parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et peut-être le seul bémol que j'ai avec lui, c'est la capacité à mettre son numéro 9 dans les meilleures conditions. Parce que mine de rien, quand il a eu le peu de fois qu'il a eu à l'heure sous la main, c'était pas fameux. Crasso, quand il a eu sous la main aussi, c'était pas ouf. Allez, il a essayé Karim Konaté de temps en temps. Il me laissait toujours l'impression, finalement, que les neufs qui passaient en Côte d'Ivoire n'étaient pas bons. Donc ça fait que c'est une réelle interrogation, et puis on verra comment il gérera Moumbagna quand il sera là, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer avec Jean-Louis Gasset à la tête de l'Olympique de Marseille, selon moi.
Bah, merci beaucoup, Ismo. Juste, je te lis une question. Je sais que tu as beaucoup intervenu sur ces dernières minutes, t'inquiète, puis c'est une question que Edos nous a posée sur le hashtag, Edos Sama, qui nous avait demandé si ce que tu pensais au niveau de son management et sur sa capacité à faire des choix forts au sein de l'Olympique de Marseille. Et il mettait notamment en avant le choix de non-sélection de Wilfried Zaha, je crois, qui n'était pas à la CAN en janvier.
Donc, au niveau du management des joueurs, je pense que c'est un bon meneur d'hommes. Parce qu'il n'y a qu'à voir le nombre de fois où les joueurs ivoiriens l'ont soutenu publiquement après le fait qu'il ait pris sa démission ou qu'il ait remercié, ou etc., etc. Il y a Simon Adingra qui l'a fait, Sébastien Haller l'a fait, je crois que Sekou Fofana l'a fait aussi. C'est un joueur qui sait se faire apprécier de... Enfin, non, pardon, c'est un entraîneur qui sait se faire apprécier de ses joueurs. Donc à ce niveau-là, je ne me fais pas de soucis. Maintenant, au niveau des choix forts, il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas un entraîneur que je pense capable de faire des choix forts, malgré le fait que Wilfried Zaha n'ait pas fait la CAN. Parce que l'absence à la CAN de Wilfried Zaha, disons que c'est un peu politique, parce que bon, il avait un peu égratigné la fédération publiquement. Et puis au-delà de ça, de toute façon, son comportement n'était pas irréprochable quand il venait en sélection. Donc, c'est un mélange de tout. Je ne pense pas que ce soit la seule, la décision seule de Jean-Louis Gasset. C'est un truc qui s'est fait un peu en consortium, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai bien répondu à la question de l'ami.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Ismo. Merci beaucoup pour tout ce que tu as pu nous apprendre et tout ce que tu
J'ai
as
bien
pu
compris, Marseille finit dans les trois premiers avec ce qu'il nous a dit, Ismo.
Je dirais pas ça parce que les gens, quand tu leur promets un truc et
C'est pour
qu'ils
ça.
partent insulter. Donc,
Non, mais non, moi j'ai envie que tu sois là et tu sois sûr parce que la dernière fois que tu as annoncé un truc avec certitude, on sait ce qui s'est passé, donc tu vois.
Non, mais honnêtement, moi je pense, surtout au vu de comment ça s'appelle, du championnat,
Ouais, bah oui, c'est ça, surtout.
qu'il y a de
T'es quand
grandes
même pas loin du
chances
deuxième.
que l'OM puisse truster le top 4. Maintenant, on ne sait jamais. Peut-être que demain, les quatre premiers vont commencer à se comporter comme de vraies locomotives et ne plus perdre de points. Parce que, en soi, c'est pas un scénario qui est pas familier à la Ligue 1. Il y a plein d'exemples de saisons où tu vois les trois, voire quatre premiers, non, plutôt les trois premiers du championnat qui avancent au ralenti. Et puis d'un coup, tu les vois enchaîner 8 victoires d'affilée. Tu te demandes, mais en fait, quand est-ce qu'ils vont commencer à perdre des points? Donc, si l'OM de son côté fait sa part du boulot, et je pense qu'elle va en être capable, bah, il y a des chances pour qu'elle puisse finir dans le top 4 du championnat, en tout cas, selon moi.
Et Isbo, il y a un autre exemple. Tu parlais des exemples sur la Ligue 1 sur les dernières saisons. On a par exemple celui de Monaco, le Monaco de Kovac qui avait été éliminé en barrage du Champions League. Je sais pas si ce Monaco-là avait retrouvé l'Europa League juste après, mais qui avait mis énormément de temps à démarrer et qui, sous le mandat d'un coach touché au pied, le don, l'ancien coach de Monaco juste après Kovac,
Le Belge, Clément. Clément.
Philippe Clément, ouais, avait enchaîné, je crois, 8 victoires sur la fin de saison, était passé de genre milieu de tableau à deuxième, troisième. Je crois même deuxième avant la dernière journée. Ça peut être aussi un exemple à suivre.
C'est ça, surtout que mes respects à Philippe Clément, mais c'est pas le plus grand tacticien que la Ligue 1 ait connu, quoi, tu vois. Donc, ça fait que je pense qu'aujourd'hui, le déclic à trouver, il est plus mental qu'autre chose. Et comme je le dis, et j'en suis convaincu, c'est pour ça que je le répète, la qualité, c'est pas ce qui manque dans l'effectif marseillais. Il faut juste qu'il y ait un chef d'orchestre qui soit capable de se dire, bon, moi j'ai tel joueur, je le fais jouer dans les conditions dans lesquelles je sais qu'il va performer. Et en ayant vu Gasset, je crois, 1 an et demi ou 2 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, je sais qu'il en est capable. Et moi, je me fais aucun doute à ce niveau-là.
En tout cas, ça faisait plaisir d'avoir quelqu'un qui pouvait nous parler de Gasset en l'ayant vu et en l'ayant analysé. Merci beaucoup, Ismo. Le Space, ça fait déjà 2 heures, je crois, qu'on l'a lancé. On va conclure, je pense, dans les 15 prochaines minutes. Outre la parenthèse, du coup, Gasset, on a pu avoir des précisions essentielles et très précieuses. On va peut-être revenir sur Pablo Longoria et le projet de l'Olympique de Marseille pour conclure. Du coup, aller vers Yous, qui pour l'instant n'a pas donné son avis sur tout
Hein,
ça.
balance, hein. Il y en a d'autres qui n'ont pas donné leur... Non,
Ah oui, j'ai oublié que tu es sous contrat avec la direction et que tu peux pas t'exprimer.
Non, mais j'ai l'impression qu'on en a parlé 1 million de fois de Longoria, du projet, de toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que.
Bah, tu peux pas, bah, par exemple, si tu as vraiment pas
Non,
envie de revenir
non, non.
là-dessus, parce qu'on en a parlé en podcast, et d'ailleurs, si vous voulez aller écouter, on en avait fait un épisode avec Yous, Opti et Younes, on en avait parlé pendant 1 heure, 2 heures à aller écouter. Si tu as envie de parler, par exemple, de l'avenir, je sais pas, par exemple, de Fonseca.
Non, mais Fonseca, comme on l'a dit, hein, c'est le coach rêvé du nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Maintenant, entre rêver de le faire et le faire, il y a pas qu'un pas. Il y en a beaucoup des pas et il faut que le coach veuille bien aussi. Il faut que le projet soit cohérent. Il y a toutes ces choses-là. Mais ouais, après, sur Longoria, concrètement, ouais, je pense qu'ici, tout le monde est d'accord, tout le monde s'accorde à dire que c'est peut-être le principal responsable de la situation actuelle. Mais moi, j'ai envie d'être peut-être philosophe. On n'est qu'en février et la saison est encore longue. Il y a encore beaucoup de journées.
Allô?
Youssa
Ouais.
Buggy? Bah vas-y, au petit, je ne sais pas si tu veux le reprendre.
Je pense que je peux suivre les mots qu'il allait dire. Mais il est dans les dans les auditeurs, là. Je ne sais pas s'il va remonter.
Ah, moi, je le vois encore en intervenant. Au petit, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
Ouais, de toute façon, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. C'est le responsable numéro 1 de la saison. J'ai presque envie de dire qu'il a de la chance que la Ligue 1 soit aussi mauvaise à l'instant T et que Gattuso se soit viandé pleinement depuis 2024. Parce que si, par exemple, si Brest, par exemple, le pénalty hier en début de match sur Illiman, tu prends 3 points, tu continues avec Gattuso, tu l'aurais pas viré et les journées seraient passées. Peut-être tu n'aurais pas gagné la semaine prochaine, peut-être tu n'aurais pas gagné les 2 prochaines journées. Et la décision que tu prends aujourd'hui, tu l'aurais peut-être pris beaucoup plus tard. Là, il reste 12 journées de championnat. 12 journées de championnat, ça fait 36 points. Dans les équipes qui sont devant toi, je ne veux pas leur porter préjudice, mais on connaît l'OGC Nice. On ne connaît pas l'OGC Nice de Farioli, mais on connaît l'OGC Nice de manière générale. Ça s'écroule. Rennes, ça s'écroule. Lille, ça s'écroule pas tout le temps, mais ça s'écroule quand même un peu souvent. Il y a une conjoncture qui fait que c'est pas impossible de penser que si Gasset arrive à faire prendre la mayonnaise, il y a de quoi sauver la saison. Parce que finir ne serait-ce qu'en Europa League, au vu de la situation dans laquelle on est à l'instant T, je pense que tu peux considérer ça comme sauver la saison, et même la Conference League. Parce que avec les parcours en dernières années en Coupe d'Europe, l'OM se replaçait au niveau du COEF UEFA, et être absent de Coupe d'Europe une saison, ça pouvait porter un grand préjudice à ça. Donc,
Surtout, ça ferait mal au bilan, au petit, parce qu'on sait que l'objectif de l'OM, c'était de se stabiliser sur les 3-4 premières places en attendant l'augmentation des droits TV liés au nouveau format de la Champions League. Et réussir tes 2 dernières saisons avec une 2e place, une 3e place, avec à chaque fois une certaine identité de jeu, et quelque chose d'intéressant au final, et en arriver à la 3e et complètement de vautrer, ça serait...
Et d'ailleurs, t'as prononcé le terme identité de jeu, ça m'a donné envie de rebondir sur ce qu'elle disait tout à l'heure. Je pense que pour évaluer l'effectif, et on va pas le reprocher, mais je pense que c'est le biais majeur dans l'évaluation de la majorité des joueurs de l'OM de cette année, c'est que le fait qu'il y a un collectif nauséabond, et donc dans un collectif nauséabond, personne ne ressort. Parce que on peut prendre l'exemple d'un Sid Kolasinac. Je pense qu'au début de la saison dernière, personne ne pense à Kolasinac comme joueur d'Olympique de Marseille qui peut apporter sa pierre à l'édifice. Et un an plus tard, tu vois souvent des tweets dire « Ouais, mais on a laissé partir Kolasinac. » Je pense qu'il n'y a pas meilleur élément pour démontrer à quel point un collectif peut mettre en valeur un joueur ou le mettre plus bactère et le dévaluer aux yeux des gens, tu vois, aux yeux des supporters. L'autre joueur, ça me fait rire parce que c'est le même poste, ou presque le même poste, c'est Luan Pérez. Luan Pérez, dans la saison de Sampaoli, on en a eu 2. Alors le premier a duré très peu longtemps, tout comme l'enthousiasme de la majorité des supporters pour Luan Sampaoli. Mais le Luan Pérez de début de saison, tu te dis, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a récupéré ce joueur-là, le central gauche, parce que tu as tout le temps le ballon, parce que tout ce que tu lui demandes, c'est d'aspirer la pression du pressing adverse, tout ce que tu lui demandes, c'est de distribuer le ballon, et il brille, tu le vois jamais défendre, donc tu sais pas qu'il sait pas défendre, et puis quand, au fil des semaines, ton équipe se détériore, que ton bloc recule, que tu passes d'une équipe qui ne cesse de presser à une équipe qui campe dans sa surface, et que tu rapproches notre ami Luan Pérez de la ligne de touche qui le terrifie, tu te rends compte que c'est plus le même joueur et qu'il n'a plus du tout le même rendement. Donc tu poses la question de savoir si le joueur est naze ou si le collectif dans lequel il évolue met en avant le fait qu'il soit naze et pas sa qualité. Et là, je pense à l'heure actuelle dans l'effectif de l'OM, il y a bon nombre de joueurs qui sont en deçà de ce qu'ils sont capables de produire si tu les mets dans des bonnes conditions. Et Lehmann, c'est le meilleur exemple, et c'est les exemples qu'on préfère le prendre parce que c'est un offensif. En plus, c'est un offensif quand même assez talentueux, assez jeune. Là où Aubameyang, tu peux penser que dans un bon collectif, d'ailleurs, il a montré dans la bonne phase en 3-5-2, il pourrait faire mieux, mais c'est un mec en fin de parcours. Donc c'est frustrant de voir Aubameyang comme ça, parce qu'en plus il gagne beaucoup d'argent, Mais Illiman, je pense que c'est la frustration numéro un des joueurs des supporters de l'OM. Pour ceux qui savent percevoir qu'il a du talent, pour ceux qui ne savent pas le percevoir, ils voient juste un mec à 5 millions d'euros qu'on a payé 18, comme il a dit Gizmo. Mais la réalité pourrait être tout autre. Et on espère que Jean-Louis saura le démontrer dès jeudi. Il me semble qu'il y a une statistique qui dit qu'une équipe qui vient de changer d'entraîneur a un pourcentage de chances plus élevé de s'imposer qu'une autre, en général. On espère que ça sera le cas en Europe et que ce renouveau qui débuterait par un succès en Coupe d'Europe un jeudi soir pourra amener un peu de calme. J'ai aussi regardé le calendrier. Gassé printemps, parce qu'il ne faut pas oublier printemps, arrive avant des matchs contre Montpellier, Clermont et Nantes. Tu peux espérer un plein de confiance entre la qualif contre Donetsk et cette série-là. Et au-delà d'un collectif footballistique, tactique et toutes ces composantes-là extraordinaires, tu peux espérer qu'il émane un groupe de ce début de mandat de Gassé, si ça a amené à bien se passer, qui pourrait redonner un peu d'intérêt aux supporters de l'OM et sauver le derrière de Pablo Longoria.
Merci beaucoup, petit, les amis. Ça va faire un peu plus de 2 heures qu'on a lancé ce space. On va le conclure là au cours de ces 5 prochaines minutes. Ne vous inquiétez pas. Juste avant qu'il finisse, je vais vous poser une dernière question. Mais encore juste avant, je vous invite une dernière fois à aller suivre nos intervenants, à aller suivre notre média. Si vous ne nous connaissez pas, on traite l'actualité de l'Olympique de Marseille. On essaie de l'analyser. De base, on est sur Instagram. On s'est lancé sur Twitter au mois d'août. On essaie de vous proposer du contenu de qualité avec à chaque fois du débat, comme je l'ai dit, de l'analyse. Et vraiment essayer de mettre en place un débat au sein de la Team Web et pas confronter des avis extrêmes pour renforcer le clivage. Essayez vraiment d'analyser, de vous relayer l'actualité, de vous permettre de décrypter l'actualité. Et on a pas mal de projets. On a fait une interview de Mathieu Valbuena il y a quelques semaines, qui était vraiment pas mal, qui était un plaisir pour nous de la faire. Et si vous nous suivez, que vous aimez notre contenu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker nos posts, à aller voir notre Instagram pour nous donner de la force et pour nous permettre de grossir en tant que média OM et vraiment de nous imposer parce qu'on a vraiment envie de devenir un média important qui compte au sein du panorama médiatique olympique de Marseille. Je vais vous poser donc une dernière question à tous. Je ne sais pas si Yous veut remonter et je vais commencer par la poser à la personne la plus âgée de ce space, Because, un ancêtre. Du coup, sur l'avenir de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que vous attendez clairement de l'OM au cours des prochains mois, c'est-à-dire en termes de projet? Est-ce que vous souhaitez le départ de Longoria ou non? Quel coach vous voulez cet été? Et à quoi en fait vous attendez, vous, en tant qu'analyste, en tant que supporter? Je vais commencer par Because, si tu m'entends bien, Because.
Oui, bonsoir. Bonsoir, Arles. Arles, bonsoir, tu m'entends?
Je t'entends parfaitement, Because. Je ne sais pas si tu as entendu ma question.
Oui, j'ai bien entendu. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes. Et à toutes les personnes qui sont dans ce space. Moi, j'étais là depuis le début, donc j'écoutais. Et voilà, en fait, j'ai bien entendu ta question, mais là, pour parler de l'avenir de l'OM, l'avenir de l'OM fait un peu peur, parce que l'avenir de l'OM fait peur, parce que déjà, au niveau de l'effectif, il n'y a pas... Tu dis, on va faire la saison prochaine avec le jeu, parce que déjà, l'effectif actuel, là, il est pas talentueux, il y a ni la quantité, il y a ni la qualité. Et en plus de ça, si tu fais pas l'Europe la saison prochaine, ça veut dire que tu peux pas attirer encore des joueurs qui sont assez moins. Et là, l'effectif, il y a beaucoup de trentenaires qui sont pas bankables. Les jeunes aussi, les rares qui sont bankables, ce sont les joueurs qui sont bons. À l'image de Balerdi, de Unahi, des jeux comme ça. Et en plus de ça, au milieu, tu risques de perdre Pape gratuitement. Donc, ça veut dire qu'il va te rester Veroto, Rongier, qui sont bons, mais qui ne sont pas des joueurs qui peuvent te permettre d'aller chercher un podium. Donc, l'avenir de l'OM est incertain. Et voilà, Et c'est le résultat du travail de Longoria depuis le départ de Sampaoli. Parce que, voilà, tant la gestion sportive est désastreuse, tant la gestion humaine aussi n'est pas bonne. Parce que si à chaque fois que tu veux sortir un joueur, tu l'attaques au niveau de la presse. Donc, à un moment donné, même si le joueur est fautif comme Klose, c'est-à-dire qu'après, les gens vont se poser la question, est-ce que c'est vrai parce que tu as eu à faire ça à X et à Y avant de faire à notre joueur. Donc, la gestion humaine, c'est à désirer. La gestion sportive, c'est à désirer. Le choix du coach, il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire que l'OM, c'est comme cela. On sent que, voilà, qu'il n'y a pas de projet, il n'y a rien. En fait, c'est du pilotage à vue. On s'adapte à chaque fois parce qu'on fait une erreur, on s'adapte, on fait une erreur, on s'adapte. Et voilà, donc cette saison, on a eu la chance que la Ligue 1 est très faible, mais dans une Ligue 1 normale, avec le rythme qu'on a cette saison-là, normalement, l'OM doit jouer le maintien. Et voilà, il y a cela. Toi, moi, je vais dire que, voilà, que l'OM que je vois là, moi, je vois Lyon en mieux état que l'OM. Il y a 3 mois de cela parce que. Quand tu te projetais, tu savais au moins que Lyon, il y avait un projet, même si ça n'apprenait pas, il y avait un projet derrière, mais en l'œuvre, il n'y a pas de projet, il n'y a rien du tout. Et quel coach, en fait, quel coach aimerait venir dans cet homme-là? Parce qu'aujourd'hui, on parle de Fonseca, mais moi, je ne vois pas Fonseca qui est plutôt adepte de mettre en place un projet et tout, et venir en l'œuvre, parce qu'en l'œuvre, il n'y a pas de projet, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et voilà. Et on va carrément droit au mur. Et voilà. Soit Longoria, soit il change complètement de stratégie, soit il laisse la place. Maintenant, Tessier prend de la place. Tessier, il est installé par qui?
Bicouz, je ne sais pas si tu as bugué. Bicouz.
Oui.
Tu
RLS.
m'entends?
Oui.
Ouais, je ne sais pas si tu as bugué ou si c'est moi qui ai bugué, mais on ne t'entendait plus. Quand
Attends.
tu as dit Tessier, il est installé par qui?
Voilà,
Après que tu as dit.
voilà. En fait, je sais pas. Tessier, il est installé par qui? Ça, c'est une question. Tessier, est-ce qu'il est là pour un projet à court terme? Ou bien est-ce qu'il est là pour mettre en place ses amis et ses Stéphanois? Ça, c'est une autre question. Est-ce que Tessier est capable de gérer un mercato comme celui de l'OM, parce que même s'il a des voilà, essayer de voir s'il peut vendre quelques jours au niveau de la Saoudi pour se faire de l'entrée de l'argent, est-ce que c'est possible? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser comme ça.
C'est vrai, Bicouz. En tout cas, on verra. Merci beaucoup pour ton intervention. Et tu as raison sur Fonseca, parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais est-ce qu'un coach comme Fonseca va accepter de venir à l'OM? Au petit, je te pose la même question. Qu'est-ce que tu attends de l'OM au cours des prochains mois, au cours du prochain été? Est-ce que selon toi, Longoria doit partir? Juste, qu'est-ce qui doit se passer au petit pour toi? Qu'est-ce que tu attends de ce club? Si au petit, encore en intervenant et qu'il m'entend. Je crois qu'il est parti, Well. Bah alors, Well, je te pose la question avant de conclure ce space. Si Well est là également.
Je suis là, Arilès.
Ouais, bah Well, je te pose la même question. Because, qu'est-ce que tu attends de l'OM en termes de projet au cours des prochains mois, notamment le choix de l'entraîneur cet été. Et pour l'après, est-ce qu'ils font un renouveau? Est-ce que Longoria doit continuer? Est-ce qu'il doit partir? Je te pose cette question.
Ah, simple, de la structure, des joueurs qui seront capables de mener, un entraîneur qui sera capable de mener le bas de la barque. Je sais pas, nous on est bon sur ça, on aime bien refaire les choses. Donc si Longoria doit partir, qu'il parte. S'il doit rester, qu'il reste et qu'il s'entoure des bonnes personnes pour faire un bon travail. Arrêter de surpayer les joueurs aussi, ça peut être une bonne chose, Riles. Sincèrement, je trouve qu'on surpaye un peu trop les joueurs, qu'ils soient mid ou bien bons, hein, nos joueurs. Et ça fait partie de notre problème structurel au final. J'attends juste de me qualifier quelque part là pour l'année prochaine et on verra en fonction d'où est-ce que tu vas être en fonction d'où est-ce que tu vas être l'année prochaine et si tu es en conférence, en Europa ou Si on croise les doigts, t'arrives à accrocher la Ligue des Champions ou même les barrages, ben, il va falloir travailler en conséquence et tout simplement, je sais pas, franchement, j'en perds mes mots parce que à chaque fois, je me dis, bon, ben, c'est le moment, c'est le moment. Cette année va être encore meilleure que l'année d'avant. On va bien travailler. Longoria, il va recruter des bonnes personnes un peu de partout. Et tous ses collaborateurs, ils vont être là pour le club. Au final, c'était pas le cas, donc je sais pas. Mais toi, qu'est-ce que t'attends, Riles?
Ouais, bah pour conclure ce space, moi je vais donner mon avis. Je parle en mon nom, je parle pas au nom du média. J'attends des changements. J'attends à ce que ce soit l'instabilité, qu'elle soit conjoncturelle ou structurelle au club. Je pense qu'elle a été conjoncturelle et qu'elle a été institutionnalisée et qu'elle est donc devenue structurelle prenne fin. Et je pense que malheureusement, pour mettre fin à l'instabilité, bah, il faut couper des têtes. Alors peut-être qu'au final, ça fera encore un changement. Je pense qu'il faut repartir d'une page blanche, malheureusement. Je parle à mon avis, hein, je parle bien à mon avis. Pablo Longoria a épuisé son crédit. Que malgré un projet qui était intéressant au cours de la première partie de saison, qui malgré une première transition de style restait intéressant, a multiplié les erreurs au cours des 12 derniers mois, et des erreurs qui sont trop graves. Qu'on pouvait anticiper, que nous-mêmes on a, je vais pas dire, on va pas dire qu'on a la science infuse, mais et qu'on les a anticipés, mais qu'on avait déjà alerté cet été, notamment lorsqu'on faisait des podcasts sur le choix du coach, sur le choix Marcelino, en disant que c'était un très bon entraîneur, mais que la transition avec Tudor, ça pouvait être très compliqué. Lorsqu'on parlait de l'instabilité d'effectif, qu'on faisait des tweets et qu'on se faisait tout simplement lyncher sur ce réseau, parce qu'on n'avait pas le droit de remettre en question Pablo Longoria sans passer pour un provente, quelqu'un qui voulait déstabiliser le club. Alors qu'on était juste des mecs qui voulaient le bien de notre club et qu'on fait ça sans l'influence d'aucun dirigeant, sans l'influence de quelqu'un, contrairement à beaucoup de gens sur ce réseau. Je pense que Longoria a épuisé son crédit, qu'il doit y avoir un gros changement, que Longoria doit être le premier à partir. Est-ce qu'on aura mieux derrière? Je ne sais pas. Est-ce que Tessier, ça sera mieux que Longoria? Est-ce que si ce n'est pas Tessier, est-ce que ce sera mieux que Longoria? Je ne sais vraiment pas, mais en tout cas, pour moi, Longoria a juste démontré sur les 12 derniers mois que son projet n'était pas viable, qu'il n'avait pas d'idée, que ce soit au niveau des coachs ou ni au niveau du projet de jeu pour ce club, que sa communication est juste, je trouve, très mauvaise. Surtout l'interview SoFoot qu'il a fait, où on a l'impression qu'il s'invente des ennemis. Je pense que c'est déjà le signe de quelqu'un qui perd un peu la tête. Je remets pas en question ses qualités intrinsèques de dirigeant. Je pense juste qu'il doit vraiment... Il doit vraiment partir et qu'on doit partir vraiment juste après sur un projet stable. Même si on n'a pas des résultats à court terme, mais c'est là où il faudra peut-être nous dompter, nous, en termes de supporters, et un peu nous apprendre, je sais pas nous dire nous apprendre le football, mais nous calmer, nous proposer quelque chose d'ambitieux à long terme, mais pas forcément très efficace à court terme. S'il faut sacrifier le court terme pour le long terme, faudra le faire. Et penser vraiment long terme, penser à un Olympique de Marseille qui planifie. Qui travaille, qui a une cellule de recrutement qui travaille, qui fait pas simplement du recrutement de réseau via des agents pour engraisser certains agents, qui pensent pas à l'intérêt de ses dirigeants quand il faut communiquer sur certains joueurs ou quand il faut faire des sorties médiatiques, qui nous inventent pas des histoires en conférence de presse où on a vu le stade Vélodrome devant un hublot d'un avion, et c'est pour ça qu'on a choisi le coach alors que on a fait n'importe quoi pendant un mois pour choisir le successeur d'Igor Tudor. Vraiment quelque chose de stable, de penser avec une philosophie de jeu qui profite de tout ce qui s'est passé sous Longoria, de tirer les bons éléments, de piocher les bons éléments parmi tout ce qui s'est passé pour reconstruire. C'est-à-dire que bah, ce qui a été bien sous Sampaoli et ce qui a été bien sous Tudor, bah, essayer de le mixer pour trouver un entraîneur qui colle. Trouver des dirigeants qui travaillent, qui ont peut-être fait leur preuve dans d'autres clubs. J'ai quelques noms en tête, mais je ne les donnerai pas maintenant. On voit qu'il y a des clubs en France qui travaillent bien au niveau de leur cellule de recrutement. On voit qu'il y a des dirigeants qui ont fait un super taf, qui ont fait un super taf en Europe. Je pense par exemple à Modesto qui était annoncé du côté de la Roma, qui a fait un beau taf du côté de Monza et du côté de l'Olympiakos. Des mecs qui travaillent, des mecs qui ont une vision long terme, des mecs vraiment à qui on confie un projet. Et qui peuvent faire rayonner ce club et qui peuvent le redresser avec une vision vraiment, j'insiste, long terme. Et s'il n'y a pas de stabilité, que les coachs sont vraiment épuisés, qu'il y a vraiment quelque chose de structurel et qui empêche les coachs de s'imposer à l'OM, au moins de la continuité. C'est vraiment ça, de la continuité, de la stabilité, de la vision à long terme. C'est tout ce qu'on réclame à l'Olympique de Marseille et de la cohérence. Si on a juste ces quatre choses-là, je pense qu'on pourra au moins voir quelque chose de très intéressant à l'Olympique de Marseille, parce que les clubs qui l'ont fait en France, je vais citer des exemples, mais par exemple comme Lens, aujourd'hui réussissent. Je sais que Lens, c'est pas Marseille, mais même Lille, un club qui a eu des problèmes financiers, qui a changé de président, qui a changé d'actionnaire, travaille bien aujourd'hui avec une équipe qui est cohérente. Quand tu la vois jouer, il y a un très bon coach, il y a des joueurs qui sont pas qui sont recrutés pour rien du tout et qui performent. On demande juste ça en tant que supporter, et que ce soit X, Y dirigeant ou un autre, on l'acceptera. On défend aucun dirigeant, on défend aucun joueur. Nous, on veut juste le meilleur pour ce club. Et moi, si je parle personnellement, pas au nom du média, le meilleur passe par là. Et ceux qui vont vouloir me parler de Franck McCourt, etc., qui doit partir, bah, et pour conclure ce space, hein, parce qu'on nous l'a beaucoup reproché ces derniers jours, de dire vous êtes pro McCourt. Franchement, on en a rien à foutre de Franck McCourt. Si vous voulez la vérité, c'est juste un crevard qui change pas de costume et qui en a rien à foutre de l'Olympique de Marseille, mais qui au moins met des sous. Et les sous n'ont pas été très bien utilisés sur les dernières années. Et avant de penser à McCourt, il faut penser à bien utiliser les sous qui sont mis en place, parce qu'il y a des moyens pour faire des choses, et bien utiliser ces moyens. Et quand ces moyens seront bien utilisés, ben on pourra demander à ce que McCourt se casse et à ramener quelqu'un, parce que l'OM sera devenu attractif. Et vraiment, c'est un message que je vous passe. Et encore une fois, je vous dis, on n'a aucun lien avec McCourt. Hein. Il ne sait pas qui on est, il ne nous intéresse pas, c'est un ringard. Mais arrêtez de décaler le problème sur les coachs, sur les joueurs et sur McCourt. Le problème initial à l'Olympique de Marseille, on s'efforce de le dire depuis de nombreux mois, il vient de la direction. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes sur Twitter qui ont fait en sorte à ce que le problème ne se voit pas parce qu'ils étaient en lien directement avec la direction. C'était les premiers à s'enflammer à chaque nouvelle recrue de Longoria. Et aujourd'hui, ils ne le font plus, ils le critiquent directement parce qu'il y a un dirigeant qu'on n'a pas nommé depuis le début du Space qui est parti, c'est Javier Ribalta, et qui est en lien avec beaucoup d'entre eux. Arrêtez de déloger le problème. Le problème, c'est la direction, c'est ce que Longoria et Ribalta ont fait. Ça, faut changer ça. Faut mettre, comme j'ai dit, en place un projet viable, stable. Je suis désolé, je me répète, mais j'insiste vraiment là-dessus. Et que même sur les prochaines années, si on a des désillusions comme Annecy, on se dise au moins, bah, on a tel coach qui met en place un projet de jeu, ça va payer parce qu'on travaille, ça va payer parce qu'il y a du jeu, et pas ce qu'on a actuellement, quoi. Pas un président qui a complètement vrillé, qui nous ment littéralement en conférence de presse, qui se fout de nos gueules, qui a pas d'idée, qui a vraiment pas d'idée, qui nous fait du recrutement de réseau. Enfin, en fait, tout ce que l'Olympique de Marseille est actuellement, on n'en veut pas. Et voilà. Donc, j'ai fini ce long monologue. Il y en a eu pas mal ce soir, des monologues. Je ne sais pas si le mien a été le plus pertinent. Je ne pense pas, vu la qualité des intervenants. Well, je te remercie énormément. Vraiment, tu es le dernier qui est resté. Je pense que tu as gagné le jeu. Tu es le dernier survivant. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont passées dans ce space. Vraiment, on a eu le droit. Vous avez eu le droit aujourd'hui à un casting 5 étoiles. On a eu Marwan Belkacem. On a eu Ismou Scouting. On a eu Mohamed du Club des 5, on a eu Yous, on a eu Opti, on a eu Walider, le plus grand imitateur de la Team OM. On a eu vraiment que des gens pertinents, j'ai oublié d'en citer. N'hésitez pas à suivre le média si vous voulez des nouveaux spaces. En tout cas, ça, c'était notre émission Talk Zone, en format un peu plus élargi, vu l'actualité à laquelle on a eu le droit aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ça sur Spotify toutes les semaines, le mardi matin, le lundi soir, en direct, en space Twitter. Mais Basilia Zone n'est pas uniquement un média qui fait des spaces, c'est aussi un média qui analyse et relaie l'actualité de l'Olympique de Marseille depuis maintenant un an et demi, deux ans, que vous pouvez retrouver sur Instagram. On compte près de presque 30 000 abonnés. D'ailleurs, si vous êtes combien dans le space actuellement, vous êtes 180, on a été 500 à un moment. Si vous avez tous vous abonner au compte Instagram actuellement pour nous donner de la force, peut-être qu'on aura les 30 000 abonnés dans les prochains jours. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, n'hésitez pas à aller suivre nos intervenants, à échanger avec nous en DM si vous voulez nous poser une question. Et encore une fois, je remercie tous mes intervenants. J'espère que Space vous a plu. Il sera redisponible en rediffusion sur Spotify. Et on vous souhaite de passer une excellente soirée en arrêtant de penser à l'Olympique de Marseille. Ciao à tous, bonne soirée, et on se dit à la prochaine.
Bye.
Bye.